Bonjour à vous tous. Bienvenue. Je me présente Michel Durand, je suis inspecteur de maths. Et on est en ce moment sur la semaine du numérique. C'est à cette occasion de semaine du numérique qu'on a demandé à Bastien Mas de venir ici pour nous faire une conférence sur l'intelligence artificielle. C'est une conférence auquel on a pu assister à Nantes il y a quelques mois et que j'ai trouvé très intéressante. Donc, je lui ai demandé de venir, il a accepté gentiment. Donc un grand merci à vous. Donc c'est Sébastien Mas qui est de l'Université de Nantes. Il est de formation ingénieur. Il est responsable pour animer la chaire qui s'occupe un petit peu de l'intelligence artificielle. Mais il présentera ça mieux que moi. Donc je vais lui laisser la parole. Je vous souhaite une bonne conférence qui durera à peu près une heure et quart. Et on prendra à peu près le temps de répondre à vos questions et d'échanger bien simplement. Je vous souhaite une bonne soirée.
Bonsoir. Merci à toutes et à tous d'être présents ce soir. Donc, effectivement, je vais commencer par me présenter un petit peu, puisque ça va me permettre d'illustrer un petit peu la manière dont je vais vous parler d'intelligence artificielle et d'éducation ce soir. Donc, je travaille effectivement à l'Université de Nantes et je coordonne une chaire sur l'éducation ouverte et l'intelligence artificielle. La spécificité de cette chaire, c'est qu'elle est intégrée au centre de développement pédagogique de l'Université de Nantes, donc dans une équipe pédagogique et pas dans un laboratoire. Et le but justement de cette chaire, c'est de faire un petit peu du lien entre les projets de recherche et le tout public. Donc ça contient une partie de médiation et d'accompagnement des équipes de recherche pour parler un petit peu de leurs projets. Mon autre fonction, c'est d'administrer l'association ClassCode. Donc ClassCode, c'est un projet, c'était un PIA, c'est toujours un PIA jusqu'à la fin de l'année. Elle est association depuis le mois de novembre, puisque c'est la dernière année dans laquelle elle rentre en tant que plan d'investissement à venir. Donc ClassCode, c'est une association qui a pour but d'accompagner les enseignants, les animateurs du périscolaire, les médiateurs dans l'apprentissage du code en proposant des MOOC en ligne. Donc, juste pour vous situer un petit peu, voilà, le but de cette chaire, c'est de faire du lien entre les projets de recherche qu'on peut avoir donc en travaillant avec des laboratoires, avec l'INRIA, avec des projets européens, et de pouvoir les rendre explicables au tout public. Ça peut être des enseignants, ça peut être des étudiants, ça peut être aussi vraiment des actions de médiation sur des événements. Donc en gros de faire de l'IA pour l'éducation, puisque la plupart de ces projets sont orientés d'utilisation de l'intelligence artificielle au service de l'éducation. Donc on a par exemple des projets de reconnaissance, de diagnostic de la dysgraphie, avec des tablettes qui permettent de suivre une classe d'une trentaine d'élèves et puis de pouvoir voir l'évolution justement des tracés de lettres et de faire de la proposition adaptée à chaque élève en fonction des difficultés de tracé qu'il peut avoir. Donc la partie IA comprend de la reconnaissance d'images et du diagnostic graphique. L'autre côté, c'est l'éducation à l'IA. C'est un petit peu ce que je viens faire ce soir. C'est de la médiation scientifique pour expliquer ce que c'est que l'intelligence artificielle, à quoi ça peut servir, et de pouvoir introduire voilà, ce domaine au grand public et d'expliquer un petit peu aujourd'hui ce qu'on fait en recherche et comment on peut l'utiliser en éducation. Donc en appui, la chaire, elle dépend aussi de la chaire UNESCO en ressources éducatives libres et de l'association ClassCode. Donc voilà, juste pour vous, si vous ne connaissez pas, c'est une plateforme qui vous permet de suivre des MOOC en ligne. Donc aujourd'hui, on a les 5 MOOC historiques de la programmation créative, de Scratch, de l'introduction aux algorithmes, en passant par la robotique, les réseaux, l'information. C'est aussi ClassCode qui a proposé le MOOC SNT, en mars dernier maintenant, donc qui a été suivi par près de 20 000 personnes, donc majoritairement des enseignants, même si on n'a pour le coup pas les chiffres exacts, mais voilà, on a proposé ce MOOC-là pour accompagner les enseignants qui démarraient la rentrée avec cette nouvelle spécialité. Et je vous en parle un petit peu ce soir aussi, parce que le prochain MOOC qui sortira dans ClassCode au mois de mars, c'est justement un MOOC sur l'intelligence artificielle qui servira d'introduction et qui est conçu pour pouvoir être une introduction à partir de 7 ans jusqu'au lycée. Donc pourquoi je vous dis tout ça? C'est déjà pour que vous compreniez que voilà, je ne suis pas mathématicien, je ne suis pas informaticien. Voilà. Nul n'est parfait. Ce dont je peux vous parler aujourd'hui, c'est la manière dont on a travaillé avec des enseignants-chercheurs, avec les équipes des laboratoires, pour justement se dire voilà, comment aujourd'hui on peut préparer l'éducation à l'intelligence artificielle dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, peut-être même en primaire, et par quoi on doit commencer, quelles sont les bases pour pouvoir comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle. Donc c'est tout ce travail-là qu'on a monté, soit avec les équipes de recherche et avec le réseau de ClassCode, pour justement commencer à projeter un programme qu'on puisse présenter au tout public et plus tard dans les écoles. C'est un lien aussi avec SNT, parce que vous le savez peut-être, mais SNT comportait à la base 8 thèmes et l'intelligence artificielle était apparue dans ces thèmes-là. Il a été retiré par la suite, donc on ne sait pas exactement pourquoi. Il y a des problèmes de... Voilà, c'était peut-être un peu trop complexe, c'était en lien avec aussi d'autres thèmes qui étaient abordés dans SNT. Mais effectivement, il était prévu de pouvoir parler d'intelligence artificielle dès la seconde et de l'intégrer dans les spécialités comme la 8e spécialité d'SNT. Donc on sait bien qu'à un moment donné, ça va revenir et le but, c'est de préparer un petit peu voilà, l'introduction à ce thème-là dans l'enseignement. Donc du coup, déjà, de quoi on parle aujourd'hui ? Donc ça va être un petit peu la deuxième déception pour vous, c'est que définir l'intelligence artificielle, ça reste compliqué. Quand on a fait dans les laboratoires à l'université, on a demandé à plusieurs enseignants donc de spécialités différentes, principalement informatique et mathématiques, mais on leur a demandé voilà, ce qu'ils pensaient des thèmes qu'on devait aborder pour introduire l'intelligence artificielle et nous donner une définition. Donc, il y avait à peu près une quinzaine de spécialistes dans la salle et on a eu à peu près 10 définitions différentes. Donc déjà, on mettait le doigt sur quelque chose, c'était que c'était difficile à définir. Et on a même eu des remarques. Donc une personne a dit « On n'est pas prêt à pouvoir parler de l'intelligence artificielle parce que même nous, on n'est pas d'accord entre nous. » Donc moi, ma réponse était justement. C'est parce qu'on n'est pas d'accord entre nous qu'il faut en parler maintenant, parce que c'est aujourd'hui qu'on doit justement faire cet effort-là de pouvoir expliquer où on en est exactement et dans quelle direction va cette discipline. Donc là, je vous ai proposé un petit panel voilà, d'opinions générales qu'on rencontre régulièrement sur l'intelligence artificielle. Donc la première, c'est ce qu'on appelle IA, c'est en réalité que des algorithmes. Donc une version voilà, très simple, très directe. Finalement, ça reste voilà, des calculs de données, un processus. On a aussi toute la partie optimisation statistique. On pourrait même dire une des variantes de cette définition-là, c'est l'intelligence artificielle, ce n'est que des statistiques. L'apprentissage par renforcement, voilà, des concepts assez simples dont on peut traiter uniquement par le biais d'algorithmes. Une autre définition, ça va être l'IA, c'est tout simplement du machine learning. Donc de l'apprentissage machine, on génère des modèles, on essaye d'automatiser les données finalement qui sont produites par ces algorithmes, et on va faire de l'apprentissage supervisé ou non supervisé. On a juste la partie, finalement, on prend notre algorithme et on va automatiser un petit peu tout ça pour que cet algorithme puisse apprendre de lui-même. Et à partir du moment où notre algorithme apprend, on peut dire que c'est de l'intelligence artificielle. Celle qui a le plus le vent en poupe en ce moment, c'est la vraie IA, c'est quand même le deep learning. Donc les couches d'apprentissage, les réseaux de neurones, pareil, de l'apprentissage autonome, mais avec voilà, cette implémentation de deep learning qui est finalement une des techniques pour faire de l'intelligence artificielle, qui est en lien avec les trois autres, mais aujourd'hui qui prend vraiment le plus de place, c'est celle qu'on voit le plus dans la presse, c'est celle qui a, on va dire, les résultats les plus impressionnants. Si vous connaissez un petit peu l'histoire de cette discipline-là, finalement, il y a eu beaucoup d'allers-retours. On parle d'intelligence artificielle depuis les années 50. Ça a monté en puissance jusque dans les années 80. Après, il y a eu des méthodes différentes de faire de l'intelligence artificielle. On a eu ce qu'on appelle les nuits de l'IA ou l'hiver de l'IA, où finalement, ça ne marchait plus très bien. Et puis, on voyait bien qu'il y avait un peu de limite à ce qu'on était en train de produire. Et le deep learning, finalement, l'utilisation des réseaux de neurones a pu relancer un petit peu la machine. On a redécouvert des choses, on a eu de nouveau des résultats assez impressionnants. Donc voilà, il y a des hauts, des bas, et finalement, ces définitions-là correspondent un petit peu à ces hauts et bas et ces variations dans l'histoire, ou les spécialités, ou les méthodes qu'on va vouloir utiliser. Une encore plus récente, dont on a parlé, peut-être, vous avez peut-être vu des articles, c'est l'IA, ça n'existe pas. Donc en gros, là on est vraiment dans l'interprétation de effectivement c'est compliqué et c'est pas vraiment de l'intelligence déjà, c'est un ensemble de techniques déjà existantes. Et pourquoi on rajouterait cette notion d'intelligence par-dessus des choses qu'on connaît déjà depuis un petit bout de temps, qui sont un mix d'algorithmes, de l'automatisation, voilà, des architectures différentes, mais est-ce que ce n'est pas un biais de parler d'intelligence et d'intelligence artificielle ? Donc ça, vous avez des exemples très récents, le patron de Samsung en parlait encore, et il y a un livre qui vient de sortir qui porte ce titre. Donc si on essaie de donner une définition un petit peu consensuelle, sans prendre trop de risques, on pourrait dire l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de théories, l'ensemble des théories et des techniques qui sont mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. On ne donne pas de technique, on ne rentre pas trop dans le détail, on revient finalement au fond de ce qu'on est en train de parler, on parle d'intelligence, et on est bien dans un mimétisme en train de se dire on essaye d'imiter de l'intelligence humaine. C'est là qu'on va avoir des différences, c'est est-ce qu'on atteint cet objectif parce que ce qu'on est en train de produire est intelligent, ou est-ce qu'on imite le fonctionnement de ce qu'on connaît, nous, de l'intelligence humaine ? Donc il peut y avoir aussi une imitation très physique, les réseaux de neurones, ça renvoie bien à ça. C'est pas une question de mettre des vrais neurones dans une petite cellule ou quoi que ce soit. On copie finalement ce qu'on connaît du cerveau humain avec des axones, des synapses, une relation entre des points finalement qui vont donner, voilà, qui vont faire des relations. Mais c'est un mimétisme qui est purement matériel. Une autre définition, ce serait un ensemble de techniques. L'IA, c'est un ensemble de techniques qui permettant à des machines d'accomplir des tâches et de résoudre des problèmes normalement réservés aux humains et à certains animaux. Donc là, on est plus sur cette idée de se dire, là, on est en train de produire quelque chose qui, finalement, est peut-être en dehors du cadre purement rationnel ou de calcul, c'est ça qui va nous intéresser et qui va vous intéresser aussi en tant que mathématicien, c'est est-ce que l'intelligence, c'est pas aussi la capacité de produire des choses qui n'étaient pas prévues ou de faire preuve de créativité ou de produire des résultats dont finalement on n'est pas capable de vérifier la validité mais dont on va s'inspirer pour trouver des solutions. Donc si on voulait être juste, on serait obligé de mélanger un petit peu tout ça. Et je vais vous donner quelques exemples au fur et à mesure qui vont justement renvoyer à ces types de définitions de l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, voilà, il faudrait faire un petit mix de tout ça pour avoir une idée assez juste de ce que représente l'intelligence artificielle aujourd'hui. Alors au-delà de ça, au-delà de la définition, on a aussi les classifications un petit peu plus typiques dont on parle. Donc à droite, par exemple, vous avez la différence entre les intelligences artificielles fortes et les intelligences artificielles faibles. Souvent, dans les médias ou dans les écrits plus généralistes, c'est la différence qu'on va essayer de faire. Est-ce qu'on est sur une intelligence forte, finalement, qui va être capable de produire des apprentissages, de faire du raisonnement purement logique, de produire des solutions L'intelligence forte aussi, c'est l'intelligence sensible, donc capable finalement peut-être de ressentir, d'avoir... c'est aussi le fantasme de l'intelligence artificielle consciente. Donc là, on peut avoir le modèle Terminator se situerait plutôt en intelligence artificielle forte de toute façon, mais entre le bleu et le jaune. Voilà. Et ensuite, l'intelligence artificielle faible, donc qui renvoie plus à ce qu'on connaît, les algorithmes, les automates, la théorie des jeux, les systèmes experts. Donc ça, c'est une des catégorisations qu'on peut faire, finalement, qu'est-ce qu'elle produit et où est-ce qu'on peut situer cette intelligence ou ce type d'intelligence sur ce plan-là. Et ensuite, on a cette espèce de logique imbriquée, donc avec un gros ensemble qui serait l'intelligence artificielle et dans lequel on trouverait plutôt des méthodes ou des techniques ou des architectures différentes. Donc le machine learning qui formerait la plus grande, et puis en dessous, les réseaux de neurones et le deep learning. Donc c'est aussi une manière de classer, mais finalement l'important c'est de comprendre que tout ça c'est imbriqué. Tout ça, on est dans le machine learning et on est dans l'intelligence artificielle. Ce ne sont que des manières de faire. Donc maintenant, si on veut se poser la question de qu'est-ce qu'il nous faut comme base pour comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle, finalement, il y a pas grand-chose, c'est vraiment la base de ce que c'est que de l'informatique. Et on va revenir aux fondamentaux. Pour faire de l'IA, il va nous falloir des données. il va falloir comprendre la notion d'algorithme, donc savoir ce que c'est qu'un processus, qu'un ensemble d'instructions qui produit un résultat. Il va nous falloir des machines et il va nous falloir des langages. Une fois qu'on a à peu près intégré ces notions-là, c'est ce que nous, on introduit quand on fait la présentation de ce que c'est que l'informatique, on a les éléments suffisants pour pouvoir naviguer un petit peu dans la compréhension de ce qu'est une intelligence artificielle. Donc pour revenir à ces différents types d'intelligence, je vais vous donner un exemple assez concret. Quand on fait de l'introduction à l'informatique, souvent on utilise ce modèle-là qui est le jeu de Nîmes. Donc le principe du jeu de Nîmes, c'est de pouvoir prendre des allumettes chacun son tour. Donc c'est un peu, si vous avez regardé Fort Boyard, vous avez aussi ce jeu-là avec les petits bâtonnets. Donc chaque joueur joue chacun son tour, peut prendre une, deux ou trois allumettes, et celui qui prend les dernières allumettes a gagné dans cette version-là. Donc on a fait ce modèle-là sur Scratch, et en fait on a proposé dans la première version de faire prendre un nombre aléatoire entre 1 et 3. Donc il joue vraiment un peu au pifomètre, un coup il prend 1, un coup il prend 2, un coup il prend 3. Donc le joueur humain, lui, va essayer d'élaborer une stratégie, il va essayer de gagner. L'ordinateur peut prendre des décisions un peu idiotes, par exemple, il peut se retrouver à avoir 3 allumettes, il pourrait gagner et il va en prendre qu'une. Là, il joue vraiment au hasard, sans stratégie. Et en fait, on fait jouer à part un autre groupe, on leur demande de jouer entre eux et d'essayer, eux, d'élaborer une stratégie entre humains. Donc souvent, quand les gens vont commencer à jouer au jeu de Nîmes, les choses sur lesquelles ils tombent rapidement, ce qu'ils vont comprendre vite, c'est que quand j'arrive à laisser 4 allumettes à mon adversaire, j'ai forcément gagné. Parce qu'ils en prennent une, deux ou trois, j'aurai toujours des allumettes à prendre et j'aurai gagné la partie. Donc ça, c'est le premier truc qu'ils comprennent. Il faut que j'en laisse 4 à l'autre. Et après, il y a un petit mouvement qui est un petit peu plus difficile, c'est de se dire, ils nous disent, bon, on va en trouver ça, mais je dis, est-ce qu'on peut améliorer ce truc-là? Est-ce que tu peux être meilleur à ta partie? Donc en général, là, c'est un peu difficile de voir plus loin. Donc moi, je leur dis, par exemple, si tu joues contre moi et qu'on fait une partie, moi, je peux te dire que j'ai gagné dès le premier coup. Alors, en général, ils ne comprennent pas pourquoi, donc ils se disent bien qu'il y a une stratégie globale un peu plus en amont. Donc ils réfléchissent, ils continuent de jouer, et à un moment donné, on sépare les allumettes, donc on peut prendre ce même nombre-là, là il y en a 16, et on fait 4 paquets de 4. Et là, c'est beaucoup plus facile à voir, parce qu'on se dit, finalement, ce que je fais quand je laisse 4 allumettes à la fin, je peux le faire bien avant. Ça marche aussi avec 8, ça marche avec 12, et ça marche avec 16. Si moi je commence et que j'ai la stratégie optimale, je démarre contre un joueur, j'ai forcément gagné dès le premier coup. Tout ce que j'ai à faire, c'est maintenir à chaque fois un écart de 4 allumettes, et d'avoir un algorithme assez simple qui est, si l'adversaire prend 3 allumettes, j'en prends qu'une, s'il en prend 2, j'en prends 2, s'il en prend 3, j'en prends qu'une. En maintenant ça jusqu'au bout de la partie, j'ai forcément gagné. Donc une fois qu'ils ont compris ça, ils sont contents parce qu'ils peuvent battre tout le monde. Et on leur demande de modéliser ça en disant, oui mais en maths ça donnerait quoi? Si vous deviez avoir une espèce de petite expression de ça mathématique. Donc là en général c'est aussi un petit peu plus dur à formaliser. Mais la réponse c'est ça, c'est que notre objectif c'est d'avoir 4 allumettes. Et on compose avec une donnée, la donnée que va nous donner le joueur adverse, qui est sa réponse. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est 4 moins la réponse, va me donner à chaque fois la réponse optimale pour maintenir un écart de 4. Et en fait, sous Scratch, si j'enlève juste cette brique-là, qui était mon choix aléatoire, et que je la remplace par ça, j'ai un ordinateur imbattable. Et quand on fait ça en médiation, en fait, le deuxième groupe, on le fait jouer contre le jeu imbattable. Et au bout de 5 minutes, ils nous disent « Mais ton truc, il est imbattable, il est trop fort. » Et en fait, leur premier réflexe, c'est qu'ils ont l'impression que ce qu'ils ont en face d'eux, c'est une machine intelligente qui a une super stratégie et qui va gagner à tous les coups. Et quand on leur dit « Bah non, c'est le groupe d'avant qui ne connaissait rien à l'IA il y a 5 minutes, qui vient de le programmer juste en mettant 2 briques », ils sont assez étonnés. Et là, ça permet d'interroger, finalement, est-ce que c'est vraiment de l'intelligence? Là, on a un algorithme super simple, on a un algorithme optimal, on ne peut pas mieux jouer que ça. On le tient jusqu'au bout. Effectivement, pour nous, on a l'impression que le résultat est intelligent et qu'on est face à une machine qui calcule. Est-ce que ce serait différent si on jouait à un jeu d'échecs, par exemple, ou si on avait avec les jeux d'échecs avec les différents niveaux? Donc ça, on l'utilise juste pour interroger un petit peu sur qu'est-ce qui est vraiment de l'intelligence et le lien en fait qu'il y a derrière avec la notion avec la présentation de l'algorithme. Donc ça permet de comprendre ce que c'est qu'un algorithme, ça permet de commencer à poser le concept, l'interrogation sur l'intelligence, et qu'est-ce qui est vraiment intelligent? Est-ce que si on s'arrête là, est-ce que ça c'est de l'IA? Donc ça c'est vraiment la base finalement, là j'ai défini, j'utilise de la donnée qui est la donnée fournie par mon joueur adverse, j'ai introduit la notion d'algorithme, je commence à poser le débat sur l'intelligence. On a déjà, rien qu'avec ce petit jeu-là, à peu près tout ce qu'il nous faut pour pouvoir discuter derrière d'IA avec les personnes. Donc pour donner un autre exemple concret sur cette différence-là, donc d'interroger un petit peu la notion d'intelligence, et ça c'est plus lié aux architectures et à l'évolution des types, de définitions d'intelligence artificielle que je vous ai donné au début. Là on peut comparer par exemple Deep Blue, donc la machine qui a battu Kasparov en 97, avec AlphaZero, donc l'IA de Google qui a gagné au jeu d'échecs, au Shogi, au Go, à Starcraft et compagnie, qui ne s'arrête pas. Donc en termes d'architecture, c'est très intéressant de comparer ça parce que sur Deep Blue, on avait beaucoup de données. Donc de la donnée fixe, on lui a donné 700 000 parties de grands maîtres qu'on a mis dans sa bibliothèque. On lui a donné les 4000 ouvertures pour commencer ses parties et d'avoir au moins tous les débuts de parties qui pouvaient être prévus et joués. On lui permettait de calculer plus de 200 millions de positions par seconde. On lui donnait 8000 paramètres de fonction d'évaluation. Donc à chaque fois, de dire sur une position donnée, est-ce qu'il était dans la bonne situation, est-ce que là on prend des risques, est-ce qu'on est sur la défensive, voilà, qu'est-ce qu'on fait. Donc on se retrouvait avec un grand arbre, comme ça, de décision. Et en gros, là, on est sur de l'algorithmie super simple, c'est si je suis dans cet état-là, alors je prends telle ou telle décision. À l'inverse, l'architecture d'AlphaZero, c'est on lui a donné les règles des échecs, et puis c'est tout. Et on l'a laissé se débrouiller avec ça. Aucune donnée extérieure, que 80 000 positions par seconde, 9 heures d'entraînement, et que 10 000 positions prises en compte. Donc la différence en fait dans l'architecture, c'est que sur AlphaZero, ce qu'on lui a donné, c'est les règles des échecs, on l'a fait jouer contre lui-même. Donc au début, forcément, il était super nul, il faisait n'importe quoi. Il pouvait faire, à la limite, il jouait correctement parce qu'il respectait les règles. Mais il avait vraiment zéro stratégie. Et à force de millions de parties contre lui-même, il a commencé à retrouver des coups. Donc l'intérêt là-dedans, c'est que sur les 9 heures d'entraînement, il a retrouvé, donc ça c'est la 9 heures d'entraînement, c'est pour la dernière version, quand ils ont fait la première période d'apprentissage, il a retrouvé toutes les ouvertures qu'on connaît aux échecs la première semaine. Donc en jouant juste contre lui-même avec les règles, il a retrouvé tout ce que l'humanité connaît en ouverture aux échecs en une semaine de jeu contre lui. Et on voit bien que la stratégie n'est pas du tout la même. Le but, ce n'est pas de surcalculer, ce n'est pas de tout prendre en compte, ce n'est pas d'explorer un arbre qui serait énorme, puisqu'on sait que ça, ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, les échecs, ce n'est pas un jeu résolu. Peut-être qu'il y a un algorithme optimal comme au jeu de Nîmes, mais en tout cas, on ne l'a pas trouvé, et explorer tout ça, ce serait beaucoup trop long. Donc la stratégie est complètement différente, c'est qu'on prend moins de coups par seconde, on essaye de prendre les moins de données, mais on juge, on essaye d'estimer quelles sont les données les plus importantes. Et c'est surtout qu'on ne lui a pas donné de paramètres. Là, on lui dit de regarder, attention, il y a un certain nombre de choses dont on sait qu'on doit prendre en compte quand on veut bien jouer aux échecs. AlphaZero, on ne lui a rien donné, on lui a laissé découvrir ses propres paramètres. Donc la grosse différence, c'est ça. Et on se rend compte, quand on laisse cette liberté-là, ça marche mieux que quand on essaye effectivement d'avoir un contrôle total sur ses fonctions. Donc on a des exemples concrets, on sait... Donc, l'inconvénient, c'est que on ne connaît pas les paramètres que lui a décidé qui étaient importants pour bien jouer aux échecs. Donc ça, on ne peut pas vraiment les explorer. Tout ce qu'on peut faire, c'est le regarder. Donc on se retrouve un peu dans une situation où on va de nouveau observer un grand maître et on observe son jeu. Et il y a une stratégie qui naît de ça. Aujourd'hui, les joueurs d'échecs professionnels s'inspirent des techniques de jeu des IA. Donc au même titre qu'on peut dire que Carlsen a un style, AlphaGo, AlphaZero a un style de jeu. Donc il y a des anecdotes assez marrantes là-dessus d'ailleurs. C'est que, par exemple, on sait qu'il ne calcule pas ses positions de chance de la même manière que nous, on le fait aux échecs. Aux échecs, en général, on calcule le déploiement des pièces et la valeur des pièces. Donc, en gros, on a un score pour les noirs, un score pour les blancs. On dit, vous avez sorti tant de pièces déployées sur le plateau, ça vous rajoute des points. Vous avez conservé votre reine, vous avez vos fous, etc. Ça fait plus de points. Si vous perdez un fou, vous perdez un point qui coûte moins cher qu'un cavalier ou qu'un pion. Ça, c'est la méthode classique pour calculer les chances, on va dire, ou le positionnement, l'avantage, on va dire, des joueurs. On sait qu'AlphaZero ne fait pas du tout ça. Lui, il met beaucoup plus d'importance au déploiement des pièces qu'à la valeur des pièces. Il a tendance à sacrifier beaucoup plus facilement. Et en général, ce qu'il va tenter de faire, c'est de mettre le jeu dans une configuration qui n'est pas agréable pour le joueur. Alors je dis agréable parce qu'encore une fois, c'est que de l'interprétation. Mais en gros, c'est une vision un petit peu plus graphique qui est que les joueurs... voilà, les joueurs professionnels, tout le début de partie, c'est de l'automatisme. Après, la partie commence à se stabiliser. Le milieu de partie, c'est là que ça se joue et qu'il va falloir commencer à prendre des stratégies. Si on vous force à jouer dans des configurations que vous n'avez pas l'habitude de jouer, vous augmentez vos chances de gagner. Et c'est vraiment ce que fait Alpha Zero contre les humains. Après, il y a d'autres choses un peu marrantes. Vous pouvez retrouver ça sur... Il y a des commentaires de parties sur YouTube qui sont vraiment super intéressantes. Par exemple, il y a une partie où, finalement, Alpha Zero craque un peu sous la pression du joueur adverse. Donc ça, c'est très bizarre, parce que aux échecs, vous n'avez pas le droit de faire plusieurs fois les mêmes coups et de faire un cycle qui se répéterait, parce que sinon, la partie finirait jamais. Par contre, vous pouvez facilement être dans une configuration où ça fait plus de 3 coups et du coup, vous êtes dans un cercle voilà, de 7, à peu près 7 ou 10 coups qui va finalement pas faire avancer le jeu et on revient toujours au même. Et là, typiquement, il y avait une partie où il était bloqué là-dedans. Donc on peut se dire que Alpha Zero devrait tenir plus facilement sur la pression et pas craquer. Hein, je pense qu'il peut faire ça indéfiniment, contrairement aux joueurs adverses. Et bien, bizarrement, ce qui s'est produit, c'est que c'est lui qui a craqué en premier. Donc il a fait des tours comme ça, donc ils étaient à faire à peu près 4 fois la même chose, ils faisaient leur petit tour et ça revenait à peu près à la position initiale, le jeu en gros était bloqué et avançait pas du tout. Et à un moment donné, donc ça encore une fois c'est de l'interprétation, c'est pas dans son code ou quoi que ce soit, il nous dit pas non ça y est j'en ai marre, hop. Mais ce qu'il a fait c'est qu'il a débloqué ça, il a avancé un pion et du coup il a complètement reconfiguré le jeu. Il avait l'avantage et il a perdu la partie. Dans cette partie-là, le joueur adverse lui a demandé 15 fois de faire égalité. Donc, ce qu'on peut faire aux échecs, c'est qu'on dit « Ok, la partie, là, on s'en sortira pas, on dit égalité et on laisse tomber ». Donc, les joueurs professionnels font ça beaucoup aussi pour maintenir leur score, donc ce qu'on appelle le ELO. C'est voilà, le score on va dire, d'évaluation qu'ils ont. S'ils perdent contre un joueur qui est meilleur qu'eux, ils font chuter leur ELO. Donc, dans beaucoup de parties de grands maîtres, souvent, on finit par un égalité pour éviter à chacun de perdre dans son score. Mais voilà, Alpha Zero a rien lâché, il a continué de faire ça, il a débloqué le jeu, finalement il a perdu la partie. Et donc là, on ne peut être que dans l'interprétation de ça. Pourquoi il a fait ça? Est-ce qu'il a vraiment craqué? Est-ce qu'il en avait marre? Est-ce que pour lui, ça n'a tellement pas d'importance que finalement, ce qu'il veut, c'est apprendre un truc? Donc qu'il perde ou qu'il gagne, finalement, lui, il répond, il a une réponse et il obtient, il va de toute façon apprendre de ça. Mais voilà, puisqu'on ne peut pas explorer ces critères de cette manière-là, puisqu'on n'a pas rentré de critères en lui disant tu auras tel caractère ou tu feras ça dans telle configuration, on ne sait pas exactement pourquoi il a fait ça. Et c'est ce qui contribue aussi au fait qu'on puisse parler de style ou de genre de jeu, etc. Donc l'architecture vraiment, vraiment très très différente, mais la chose vraiment importante à comprendre là-dedans, c'est que ici on est même pas sur du... c'est des algorithmes, mais on n'est pas sur du machine learning, il ne l'apprend pas finalement. Là, il va faire que calculer un état et sortir un résultat en fonction de l'état qu'il a. Il n'y a pas de mémoire dans Deep Blue, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas de modification de paramètres qui ferait qu'au bout de 3 parties, qu'il a perdu de cette manière-là, il va changer sa stratégie. C'est l'absolu inverse d'Alpha Zero qui, lui, n'a aucun critère, mais ne fait que ça tout le temps, évaluer et s'adapter et changer des trucs pour voir si c'est mieux. Donc si on veut essayer d'expliquer tout ça, voilà, les bases qu'on doit pouvoir mettre en place avec les personnes à qui on va vouloir expliquer ce que c'est que l'intelligence artificielle, comme je vous le disais, elles sont pas énormes, c'est vraiment les bases qu'on a dans l'informatique aujourd'hui. Donc là vous avez un petit exemple du jeu du robot idiot. Donc le but c'est de comprendre le principe des instructions. Donc vous avez un élève qui joue le robot, un élève qui va jouer finalement le donneur d'instructions. Il va lui dire droite, gauche, tu tournes de 2 pas sur la droite, tu avances de 2 pas et on peut faire des petits parcours comme ça. Là on comprend la logique d'instruction, on comprend aussi souvent la logique de bug, parce qu'à un moment donné il y en a un des deux qui va se tromper et du coup ça marche plus et là on peut expliquer ce que c'est qu'un bug. Et on a la première base, c'est l'instruction. Ensuite, il nous faudra les 4 piliers des algorithmes, les instructions conditionnelles, une variable et les boucles. Voilà. L'introduction à ça, donc on peut le faire entre le jeu de robot idiot et le jeu de Nîmes, vous avez déjà cette base-là. Ça vous permet effectivement de pouvoir avoir suffisamment d'informations pour utiliser la définition de l'algorithme après dans vos explications. Pour l'apprentissage machine, c'est là qu'on aura, vous êtes content, un peu plus de maths, et c'est là qu'on peut vraiment exploiter le plus possible. Enfin voilà, il y a beaucoup de mathématiques à pouvoir tirer du machine learning et d'une partie du deep learning, même si c'est un peu plus compliqué. Donc là, vous avez un exemple très simple qui est voilà, déjà d'expliquer ce que c'est qu'une donnée. On récolte des données, donc là c'est une personne qui s'est baladée en forêt et qui a pris des diamètres d'arbres et des hauteurs d'arbres. Voilà. Donc il a récolté ces données, il les a mis dans un plan. On a ces petits points là qui semblent, on a vachement envie de tracer une droite à travers tout ça et de se dire, on va commencer à pouvoir interpréter ces résultats, faire de la projection et trouver finalement, si j'ai un nouvel arbre qui a par exemple 21 centimètres de diamètre, d'essayer d'en déduire sa hauteur. Donc uniquement sur ça, sur l'utilisation des données, la projection dans les plans, et d'essayer de pouvoir comprendre que ce que fait un ordinateur, c'est d'essayer de pouvoir automatiser un petit peu cette logique-là. Donc quand on le fait nous-mêmes, c'est plus simple, on aura plus de choix. Hein. Je pourrais faire une droite complète, mais imaginons que j'ai une exception qui se trouve là, dans mes résultats de données, bah, j'ai un arbre qui est complètement en dehors de mon graphique. Donc là, c'est vraiment une question de choix. Qu'est-ce que je fais de cet arbre-là ? Est-ce que j'estime que je me suis trompé et du coup, j'en tiens pas du tout compte ? Est-ce que je fais une moyenne et puis que je mets ma droite entre les deux ? Mais du coup, bah, je vais être loin de tous mes autres points, mais ce sera plus juste du point de vue de la totalité de mes moyennes. Est-ce que je fais une courbe plus complexe ? Enfin, voilà. Et ces choix-là, finalement, ils sont les mêmes que les choix qu'on va faire en intelligence artificielle, en deep learning, sur le choix des architectures qu'on va utiliser. Donc rien qu'avec ça, on peut déjà introduire ce que c'est qu'un algorithme, ce que c'est qu'une donnée, ce que c'est qu'une fonction, la descente de gradient qui va être fondamentale pour ce qu'on va faire après en deep learning, parce que c'est vraiment sur cette notion-là qu'on se base pour optimiser les résultats qu'on cherche. Donc voilà, avec un exemple très simple comme ça, on peut déjà expliquer le fonctionnement du machine learning et ce lien qu'il y a entre un axe qui serait un X et un Y avec une entrée et une sortie, et on va essayer de tourner des petits boutons pour essayer d'orienter un peu notre droite. Donc sur le graphe d'avant, c'est comme si voilà, j'avais ma droite, mon X c'est mon abscisse, mon Y c'est mon ordonnée, et puis je vais essayer de tirer les deux boutons pour essayer de l'orienter et trouver la bonne orientation qui va me permettre d'aligner tous mes points. Donc là, c'est assez facile parce qu'on n'a que deux informations, enfin on n'a même qu'une information, on essaie de sortir en fonction de mon diamètre, est-ce que je peux en déduire la hauteur ? Sauf que la plupart du temps, en deep learning, on va avoir beaucoup plus de facteurs et on peut en avoir jusqu'à plusieurs milliers, voire plusieurs millions, et c'est ça qui va poser problème. Donc on ne va pas pouvoir tourner tous les boutons de notre ensemble d'architecture pour essayer d'aligner des lignes. Mais le principe sera exactement le même. Le but du jeu, c'est de faire en sorte que mes facteurs, mes informations soient le plus homogènes possible pour que je me rapproche de quelque chose qui soit le juste et qui m'évite le maximum d'erreurs. Donc si je prends un exemple plus complexe, par exemple, donc quelque chose qui se rapproche de la reconnaissance d'image. Donc je prends une image très très simple, ma photo de chat, là, elle est de 400 pixels par 400 pixels, ce qui me donne déjà 160 000 nombres d'entrées si je voulais essayer de définir chaque pixel. Donc on est déjà sur un ensemble qui est très important, et la question qu'on se pose c'est qu'est-ce qui est important dans cette image, qu'est-ce qui est important dans cette photo, qu'est-ce que je dois regarder ? Donc encore une fois, vous pouvez le voir avec l'opposition un peu de Deep Blue Alpha 0, c'est que j'ai deux choix. C'est soit je lui dis, bah, tiens, regarde ça, c'est super important. Donc par exemple, tiens, regarde si je veux reconnaître des véhicules, regarde les roues, regarde le nombre de fenêtres, regarde la dimension, le rapport de dimension globale de l'objet. C'est ces choses-là qui vont te permettre d'avancer. Donc je peux lui donner ces consignes-là. Ou alors, je peux utiliser l'autre technique qu'on a vue sur Alpha 0, c'est de lui donner les informations, lui dire définis toi-même ce que tu penses être important pour savoir si c'est une voiture, un train ou un chat. Donc profitez-en, c'est la seule formule de mathématiques que j'ai mis. C'est maintenant. Donc là, on est. Donc c'est aussi à ce moment-là. Donc là, on passe de l'apprentissage, du machine learning à l'apprentissage profond. Et c'est là aussi que vous allez avoir un peu la limite où la complexité des mathématiques va entrer en compte. Parce que tout à l'heure, j'avais mes arbres et je pouvais faire effectivement, j'avais ma fonction, je peux tracer mes droites, etc. Quand j'ai énormément de paramètres, ça devient beaucoup plus compliqué, voire complètement impossible de pouvoir dériver tout ça, on va dire, manuellement. Donc, sur un réseau de neurones, finalement, où là, ce serait des critères ou des points sur lesquels je vais évaluer un petit peu à chaque fois ce qui peut être pertinent ou pas pour me donner une réponse, en gros, chat ou pas chat, ou voiture ou pas voiture, je vais avoir à chaque entrée, donc chaque entrée X qui est multipliée par un poids. Donc, en gros, je vais juste lui dire, bah tiens, ce pixel-là ou cette entrée-là, pour l'instant, je ne sais pas trop si ça sert ou pas, je vais lui donner cette valeur-là et on verra plus tard. Toutes les valeurs sont pondérées et additionnées avec un biais. Donc en gros, je vais avoir une fonction avec tous mes paramètres possibles qui sont à la suite les uns des autres. Donc je les pondère pour avoir en gros, le but du jeu, c'est de se dire, est-ce que ça c'est important ou est-ce que c'est pas important? Ça peut être juste 0 ou 1, je garde cet exemple-là ou je le rejette. Ça c'est vraiment, là quand on parle des réseaux de neurones, cette architecture-là, elle est vraiment copiée sur le fonctionnement des neurones, puisque un neurone et un synapse, ça fonctionne comme ça. En gros, il reçoit un signal, soit il envoie un signal électrique, soit il décharge, soit il ne décharge pas. Donc là, c'est comme si on envoyait 0 ou 1. Est-ce que cette information est importante ou pas? Et je me retrouve avec une fonction non linéaire où le seuil sépare les valeurs basses de celles élevées. Donc c'est là qu'on revient à ma descente de gradient. Le but du jeu, c'est d'avoir tous ces paramètres-là et de réduire la marge d'erreur que je vais avoir entre tous ces paramètres. Si je reprends mon petit graphe là, avec mon arbre qui se baladait, ici, donc ça paraît évident de se dire, bon bah ça c'est voilà, ça peut être une aberration, ça peut être une erreur, mais qu'est-ce que j'en fais? Mais il y a le même écart pour tous les points. Si je décide que c'est une fonction affine et que je vais tracer une droite directe, je vais avoir une marge d'erreur quand même entre chacun de mes points. Le but du jeu, c'est uniquement de réduire cette marge d'erreur le plus possible. Donc c'est là que la descente de gradient intervient. L'objectif, c'est de pouvoir réduire à chaque fois et de se dire, ok, dans le modèle que je dois présenter, je te laisse décider, tu vas faire des tests, mais le but du jeu, c'est de réduire au maximum l'écart entre ma droite et les points de mes données. Ah, donc je vous ai rajouté un petit précis de thématique. Donc, prendre une boîte noire, il secoue très fort, des explosions combinatoires, des fonctions non linéaires et du pseudo-aléatoire. Parce que c'est aussi un peu tout ça qui rend les choses compliquées. C'est que la partie, quand on parle de l'IA et le terme boîte noire revient souvent, il intervient à ce moment-là, en gros. C'est si je veux demander à mon alpha 0 pourquoi tu as pris cette décision-là, finalement pourquoi tu as craqué en avançant ton pion, je peux toujours lui demander, je peux l'observer, mais je ne vais pas pouvoir aller chercher à un moment donné, retrouver le paramètre qui lui a dit à un moment donné, là, dans ce cas précis, tu dois prendre cette décision. Et c'est ce côté un peu boîte noire qui permet de ne pas remonter en fait, dans la totalité des arbres de décision et de pouvoir avoir une réponse concrète qui souvent renvoie au fait qu'on dit que l'intelligence artificielle, en tout cas le deep learning, a un côté un peu boîte noire. Après, c'est, les autres éléments comptent aussi un peu, ça reste de l'informatique, ça reste du hasard. Donc quand je vous dis au début, on choisit, c'est le programme qui doit choisir tout seul où il met ses paramètres, ça, on décide que c'est fait de manière aléatoire. On sait que l'aléatoire est compliqué en mathématiques et en informatique d'autant plus, mais le but, c'est on a cette première information-là. Au début, on lui dit, fais ce que tu veux, et ensuite tu chercheras au fur et à mesure à te rapprocher du résultat qu'on te demande. Donc sur des réseaux complexes, on se retrouve finalement à faire des choix. Soit je vais utiliser un algorithme d'extraction de caractéristiques, donc en gros je vais lui filer un coup de main en lui disant tiens, tu dois reconnaître des voitures, regarde un certain nombre de caractéristiques, donc là les petits carrés jaunes, ça peut être les roues, la taille, etc., le nombre de vitres. On passe ça à travers un réseau de neurones, et il va nous donner un résultat positif ou négatif, c'est une voiture ou c'est un chat. Sur les réseaux profonds, c'est plus compliqué parce qu'on ne va pas lui donner ces caractéristiques-là, on va encore une fois lui laisser chercher. Donc, à la première couche, il va analyser l'image, Donc, bon, je vous ferai un détail après de la manière dont on peut analyser une image, mais il ne va pas prendre pixel par pixel, mais imaginons même qu'il fasse ça. Il prend l'ensemble de ces critères, il va les passer une première fois. Au début, il leur donne un poids aléatoire en disant, ça, je ne sais pas encore si c'est important. Je donne un point aléatoire, je le pondère, soit c'est un 0, soit c'est un 1. Donc, ils vont tous avoir le même biais. On va multiplier les couches comme ça, les unes après les autres. Et le but du jeu, c'est que à travers ces couches, ils nous fournissent un résultat. Donc c'est là que les données sont importantes, parce que je vais devoir l'aider en lui disant, en ayant au moins un repère, c'est-à-dire en lui donnant par exemple un ensemble de données, un dataset qui va contenir plein de photos de voitures, et au moins il sait ce que c'est qu'une voiture. Donc il va pouvoir les comparer, et là il sait que cette image-là, lui il a estimé que ce n'était pas une voiture, mais en fait c'en était une. Donc ça lui permet de se dire, ok, là je me suis trompé. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et je vais devoir réévaluer un petit peu mes paramètres. Donc pour bouger les paramètres, on va tourner les boutons, donc on va changer en gros les poids à chaque nœud. Donc dans le réseau profond, même si on ne sait pas exactement ce qui se passe à chaque intersection, donc il y a des architectures, on peut l'interroger ça, on peut le suivre un minimum, mais encore une fois, plus on lui laisse d'autonomie, et mieux ça fonctionne. Sauf qu'on va retrouver quand même nos critères au bout du compte, puisque finalement ce qui lui permet de prendre la décision, l'output, la dernière ligne en fait, correspond un peu à ce que nous on pourrait définir comme étant des critères. Donc lui en gros, ce sont ses critères de décision. Donc là on retrouve les petits carrés jaunes, il va vous dire à ce moment-là, juste avant qu'on vous lui donniez, vous appuyez sur le bouton en vous le disant, est-ce que c'est une voiture ou pas, c'est sur ça qu'il va finalement estimer que c'est une voiture ou pas une voiture. Donc on a la même logique, on va dire, c'est le même résultat, sauf qu'effectivement, dans un cas c'est vous qui lui donnez, dans l'autre cas c'est lui qui les trouve, et ils ne sont pas du tout interprétables de la même manière. Si vous regardez un peu là, vous allez voir en général une bouillie de pixels ou un truc, mais il vous dit ça c'est super important, c'est pour ça que c'est une voiture. Il faut le croire. Donc sur des exemples concrets, ça peut vous donner ça. Donc ça, c'est un réseau de neurones qui analyse des images et qui vous permet de déduire, qui décrit l'image et qui va vous sortir des mots en lien avec cette image-là. Donc là, voilà, il vous sort amour, femme, affection, unité, romance, etc. Donc ça, c'est un site qui s'appelle Clarify. Ici, vous pouvez tester la démo et vous pouvez importer des images. Donc c'est plus rigolo quand vous prenez une image qu'il ne connaît pas. Parce que bon, celle-là, c'est la phase de démo, il vous donne 4-5 images qu'il connaît bien. Mais si vous essayez en prenant n'importe quelle image, même une photo personnelle, ça marche aussi super bien. Donc même quand on essaye de le piéger, donc la dernière fois, j'ai essayé de lui donner une image de classe en extérieur. Donc en gros, il y avait des élèves sur le sol, sur le gazon, il y avait quand même un tableau. Et je lui envoie cette photo-là, et il me sort quand même à 99% éducation, enfants, plein air, loisirs, apprentissage, il y avait lifestyle. Il comprend ce qu'on est en train de lui montrer, il voit que c'est quand même une classe, il voit que c'est pas des enfants qui sont en train de jouer, mais il arrive quand même à interpréter du coup l'ensemble des détails de l'image. Donc il y a plein de variantes de ça, il y a des systèmes qui vous permettent de décrire une image, donc vous rentrez une image et il va vous la décrire un peu avec des mots, donc sous forme d'une phrase. Il y a une conférence de Fei-Fei Li qui présente ce système-là. Donc elle compare ça avec sa petite fille qui a 3 ans, et elle lui montre des photos, elle lui dit voilà, décris la photo. Donc il y a un éléphant, un homme qui caresse un éléphant, il y a des gens qui vont sur un tarmac, qui vont sur dans un gros avion. Voilà. Et elle compare les réponses de sa fille de 3 ans au réseau de neurones qui lui sort une phrase qui est assez similaire et qui va décrire cette image-là en fonction de ce qu'il voit. Donc ça peut être des petits outils intéressants pour voir de manière immédiate ce que ça peut produire, de jouer aussi un petit peu avec. Donc les autres qui sont sympas, vous avez Quick Draw là aussi. Donc ça, c'est les applis, je vous en montrerai une plus dans le détail, c'est des applis qui sont créées par Google, donc c'est celles qui fonctionnent le mieux et qui sont le plus jolies. Donc vous avez d'autres solutions open source, mais il faudra un petit peu plus bidouiller. Là, vous avez un test un peu immédiat pour voir ce que ça peut faire. Quick Draw, par exemple, c'est une appli qui vous permet de reconnaître les dessins. Donc vous commencez à dessiner et vous avez 20 secondes pour dessiner votre forme, donc par exemple une ambulance, et à chaque trait, il va commencer à interpréter ce que vous êtes en train de faire. Donc si vous dessinez, voilà, vous allez faire au début boîte à chaussures, après il va vous dire trottinette, après il va vous dire voilà. Et à chaque fois le mot change jusqu'à ce qu'il trouve la bonne solution ou que vous ayez plus le temps de dessiner. Donc si par contre on veut explorer un petit peu ce que c'est vraiment en fonction de ces couches-là, est-ce que ça change sur l'architecture ? Donc tester, parce qu'encore une fois, je vous dis, ça n'est qu'une question d'architecture, et à chaque fois, pour résoudre un problème, on va choisir en gros quel type d'architecture je prends, est-ce que c'est un réseau profond qu'il me faut, de quelle profondeur, jusqu'à quelle profondeur je dois aller. Quel algorithme pour trouver le gradient je dois utiliser, quelle pondération j'utilise. En fait, c'est vraiment que ça qui joue en fait dans la manière, dans le temps que ça va prendre à trouver. Donc par exemple pour la descente de gradient, l'objectif hein, c'est vraiment d'arriver, c'est comme si vous aviez une courbe convexe comme ça, et le but c'est de trouver le point le plus bas en gros de votre gradient. Souvent l'image qu'on donne c'est vous êtes dans la montagne, vous cherchez la vallée ou le refuge au point le plus bas, et le but du jeu c'est de tourner sur vous-même, vous vous tâtez, et dès que ça commence à descendre, vous descendez. Et on continue de faire ça, et on descend le plus bas, et normalement on va arriver à notre point le plus faible, donc qui réduit au maximum l'erreur entre les données. Ben ça, vous pouvez en avoir des représentations un peu graphiques, visuelles, parce que le choix de descente de gradient, on va dire donc de ce qu'on appelle les hyperparamètres, c'est le nombre de pas qu'on fait en fait. Donc, dans certains cas, si vous avez une courbe comme ça, si votre pas est trop grand, vous allez pouvoir vous retrouver à être beaucoup plus loin que votre point le plus bas. Finalement, il va revenir en arrière, donc il va aller chercher un point, vous allez remonter, et vous n'allez jamais trouver votre point le plus bas parce que vous faites trop d'allers-retours et vous n'allez pas réussir à arriver en bas de la vallée. Si par contre vous prenez un poids trop petit, bah vous allez faire des tout petits bonds comme ça et vous, potentiellement vous n'allez jamais arriver à votre point le plus bas parce que ça va mettre des semaines ou des années à se calculer parce qu'à chaque fois vous avancerez pas assez rapidement. Donc ça c'est des exemples sur TensorFlow Playground. Vous pouvez tester ça. Qu'est-ce que ça fait si je change mon nombre par exemple de couches ? Qu'est-ce que ça fait en fonction des données que je mets à l'origine ? Donc, c'est ça qui est intéressant quand on commence à bidouiller et à faire un peu même des choses pas trop compliquées comme de la reconnaissance d'image en disant chat ou pas chat, c'est qu'on voit l'importance du dataset, la qualité des données qu'on met, le nombre de données, l'architecture qu'on choisit, et le temps qu'on va mettre d'apprentissage. Donc quelques petits exemples concrets. Donc je vous en ai pris en projet de recherche et en médiation. Donc par exemple, ça c'est un petit robot qui a été créé justement pour montrer un petit peu le lien avec cette architecture d'intelligence humaine ou un peu la manière dont fonctionne notre cerveau ou que nous on réfléchit. Donc en imitant un petit peu voilà, les parties du corps et la manière dont il reçoit les informations dont il les traite. Donc là c'est de l'apprentissage d'une machine, vous avez un miroir sur les apprentissages des élèves puisque le but c'est de montrer voilà, regarde, on va programmer la machine, elle va découvrir au fur et à mesure des choses et elle va apprendre par elle-même et on va voir son comportement changer. Donc on reprend l'architecture du cerveau, les neurones se transforment les entrées sensorielles en actions. Voilà, donc là par exemple j'ai une odeur, un cortex olfactif, je vais avoir des informations qui sont données par mes sens, je sens une odeur, le cerveau va interpréter ça avec les synapses et je produis une action. Je sens la souris, j'attrape la souris. Si on met ça dans un robot, on va avoir des choses assez simples. Des capteurs, ça va être la capacité d'aller prendre les informations, le cerveau qui va les traiter, et l'action qui se produit. Si derrière ça, je mets un algorithme qui va faire tout simplement voilà, de la récompense par rapport à aux informations, de ce qui fait de ces informations-là, je vais pouvoir faire, automatiser finalement, une capacité à réfléchir ou à prendre des décisions bonnes ou mauvaises en fonction de ce que je veux. Donc là, ils ont fait une logique de récompense. Donc en gros, on lui donne des objectifs et on va lui donner un score en fonction des actions qu'il fait. Donc il va essayer tout, un peu tout et n'importe quoi, encore une fois. Au début, c'est de l'aléatoire, il explore et il fait des trucs. Et au fur et à mesure, plus le score augmente, plus il va dire « Ok, là, je suis sur la bonne voie, ça, je retiens ça comme information et je vais continuer de le faire et continuer d'explorer dans cette voie. » Donc ce que ça donne en vrai, c'est ça. Donc au début, la machine, donc là, vous avez tous les capteurs en temps réel. Donc elle est en train de chercher. Donc là, par exemple, elle ne fait que tourner à gauche. Donc ce qu'on lui a demandé, c'est d'avancer le plus loin possible. C'est ça, sa consigne. Donc finalement, elle tourne à droite, mais elle ne fait que tourner à droite. Donc elle tourne en rond dans un sens ou dans un autre. Donc elle comprend que ce n'est pas en tournant que à droite ou que à gauche qu'elle va y arriver. Donc là, elle commence à tester. Ah, la flèche, voilà. Aller tout droit, c'est plutôt pas mal. Et là, elle prend, voilà, le première limite, c'est il y a aussi des murs. Donc là, ça y est, elle a trouvé d'aller tout droit. Sauf que maintenant, vu qu'elle avait compris ça à fond, elle y va à fond, mais il y a quand même un mur devant elle. Donc là, son score est descendu, puisqu'elle n'avance plus. Donc elle fait, bah pourtant, on m'a dit, quand je vais tout droit, c'est génial. Sauf que là, du coup, son score était nul. Donc elle doit trouver une autre solution. Donc elle arrive à se dégager. Et elle va continuer d'essayer d'explorer ça. Donc là, le niveau que vous voyez aussi, c'est voilà, l'espèce de niveau de compréhension, parce que le but, c'est qu'elle se rappelle de tout ça. C'est pas qu'elle explore à chaque fois. Et voilà, donc là, premier vrai problème, le coin. Ça, c'est une grande étape dans l'apprentissage. Donc là, tourner, ça marche pas. Avancer, ça marche pas. Reculer, ça marche pas. Voilà. Allez. Donc c'est tout bête, hein. On a des capteurs, on teste, on va tester des directions, et la partie algorithmique, elle tient qu'à ça. C'est, voilà, je lui donne un score en fonction de l'objectif qu'elle tient ou pas, et ce score-là, finalement, ça va être ce que j'essaye d'obtenir, ce que je vise, et encore une fois, si on reprend ma logique avec mon plan, ce que je veux, c'est réduire l'erreur. Donc ce que je veux, c'est qu'on se rapproche de ce que je lui ai demandé et qu'on évite voilà, de tourner en rond ou d'être en position immobile. Ah, donc sur cette petite machine-là, ça vous permet de voir cet apprentissage-là, la découverte, l'exploration. Ça se code assez facilement, c'est en Python, il suffit d'un capteur caméra. Et voilà. À la fin, on fait des grands cercles, le cercle le plus long possible. Non, elle peut pas faire ça. Par contre, elle développe un comportement quand elle rentre dans le mur. Donc au début, elle reste vraiment bloquée longtemps dans le mur, et après, elle rebondit presque dessus. En fait, dès qu'elle le touche, elle se dit « Ok, ça c'est un mur », et elle repart dans l'autre sens. Elle s'en sort assez facilement. Encore une fois, les coins, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur, parce qu'en fait, elle est bloquée sur toutes ses directions. Et donc, de mémoire, là, on ne le voit pas dans la vidéo, mais ce qu'elle fait pour s'en sortir, en fait, c'est une espèce de demi-tour comme ça. En fait, elle fait plusieurs cercles à l'envers, et en fait, elle se remet dans son axe et elle reprend une diagonale. Voilà. Donc ça, en démo, c'est vraiment très rigolo à voir. Et il y a, alors oui, un peu plus loin dans la vidéo, il y a un étudiant qui se met au milieu. Donc en fait, ce qu'elle voit sur les murs, c'est son capteur. Il voit les, là, on voit pas les détails, mais en gros, il repère ça avec la couleur blanc. Donc dès que le capteur arrive sur du blanc et qu'en gros tout est blanc, c'est qu'il est sur un mur, mais qu'il n'y a pas un capteur physique. Donc là, il sait qu'il peut plus avancer. Et en fait, à un moment donné, on peut faire rentrer quelqu'un dans le carré, et du coup, on se met devant la machine. Et la personne qui faisait ça avait des chaussures noires. Et là, gros problème. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis censé avancer parce que je ne vois pas de blanc, sauf que je n'avance pas, manifestement. Donc voilà, là, on voit que ça bug longtemps. Donc elle reste immobile, essaie de faire ses droites-gauches, pareil. Après, elle recule, elle avance de nouveau, l'étudiant ne bouge pas. Et à un moment donné, elle comprend qu'elle doit faire un tour et qu'elle doit prendre un virage plus large. Et là, à la limite, c'est un mélange entre les contraintes qu'on lui a données à la base, qui étaient juste de on ne va pas faire un capteur physique parce que ça te permet de mettre, voilà, de faire des parcours différents, c'est juste avec la couleur. Et là, du coup, rajoute un élément complètement étranger au truc, on voit bien l'adaptation. Et c'est assez bluffant de voir le temps que ça prend, en fait, qui n'est pas si long, même si là, c'est que des directions. Il y a une adaptation qui est quand même rapide, quoi. Alors pour illustrer ça, on peut trouver donc on peut Il y a d'autres moyens. Nous, on a développé on a fait ça sur un événement à Nantes qui s'appelle la Nantes Maker Campus. Et on a travaillé 2 jours avec des étudiants pour faire un petit site internet pour essayer de tester un peu des productions qui étaient faites par des humains et celles qui étaient faites par des IA. Donc l'idée, c'était d'interroger le processus créatif et de voir si on se faisait avoir ou pas par l'IA. Donc c'est des choses qui existaient déjà. On a essayé de le décliner sous plusieurs formes. Et le défi, c'était de faire ça voilà, en 48 heures. Donc on a fait la base en 48 heures. Le résultat final, on a un peu triché. Donc un des supports, c'est la reconnaissance de visage. Donc en fait, le site vous permet de vous connecter et vous allez avoir des questions avec est-ce que cette personne est une vraie personne ou est-ce que le visage a été créé par une intelligence artificielle. Alors, qui vote pour quoi ? Est-ce que l'humain, qui vote pour l'humain homme ? Humain homme. Donc ça veut dire les autres, c'est IA femme ? Non ? Femme humaine ? Là, vous avez de la chance, vous avez un bel écran, vous êtes assez proche. Donc effectivement, le vrai humain, c'est l'homme. Et celle de gauche est une image créée par une IA. Et on le voit parce qu'il y a des grosses aberrations là, ici. Il y a un autre visage qui s'est collé et qui est un peu déformé d'ailleurs. Et on a une espèce de mix. Donc il y a plusieurs manières. Enfin, après, quand on a l'habitude, il y a des techniques. En fait, on peut un peu tricher à ce jeu-là. Donc nous, on a gardé en fait des datasets avec des erreurs un peu visibles comme ça, parce que vous pouvez, donc là je vous ai mis, hein, le plus connu c'est This person does not exist, et là vous avez vraiment des super rendus, et c'est vraiment bluffant, vous vous faites avoir tout le temps. Donc là, lui par contre, il vous génère que des faux humains, mais d'une qualité géniale quoi, mais c'est que des personnes qui n'existent pas. Et nous on a gardé ces images là parce que ça permet de voir en fait ce qui se passe quand ça marche pas super bien. Donc là, par exemple, on voit qu'il met 2 personnes en même temps, qu'il essaye de faire voilà, 2 visages, que ça se mixe un peu. Le truc intéressant, c'est qu'il se base sur les données qu'on lui a envoyées. Donc sa base de données, en général, c'est des photos de portraits de personnes assez proches. Ça peut être des talks aussi. Donc lui, tous les accessoires humains, pour lui, ça fait partie d'un visage humain. Donc en fait, des fois, il va vous mettre des lunettes qui vont être complètement fondues dans le visage, par exemple. Ou avec la branche couleur chair. Ou bien vous mettre un micro là, mais qui a juste la boule et pas le fil, par exemple. Donc si on prend des photos, voilà, il y a un monsieur qui a ses lunettes juste au-dessus de ses yeux là. Qu'est-ce qui se passe si on met une photo comme ça dans le dataset ? Ben, on peut se retrouver avec une personne qui a 4 yeux, par exemple. Donc c'est ces espèces de mix là, de couleurs, de textures, ça fait vraiment des trucs un peu bizarres des fois. Et c'est voilà, c'est assez intéressant de voir quand est-ce que ça fonctionne pas. Et l'autre truc qu'il sait pas faire, et c'est pour ça que celle-là elle est simple, c'est que on lui a appris à faire des visages humains. Et pas des fonds. Donc là, par exemple, la photo de droite, c'est impossible qu'il la produise. Alors des fois, il fait des trucs super jolis. On a une espèce d'impression d'immeuble ou de truc. Enfin, des fois, il y a de l'eau. Enfin, il tente, quoi. Il tente des machins. Mais parce que c'est des fonds qu'il y a sur les photos. Donc, c'est vraiment pas ce qu'il sait faire. Donc, souvent, il mélange des couleurs et il fait une espèce de bougie un peu, voilà. Ou il aime bien faire les photos un peu genre les yearbooks américains avec les voilà, les photos d'étudiants, souvent ils sont pris sur un fond gris, donc là il met du fond gris, ou il fait du flou artistique aussi, une espèce de perspective. Voilà. Mais par contre, il ne va jamais vous mettre un panneau stop derrière ou une voiture. Ça, il ne peut pas l'inventer. Donc ça, c'est un bon indice pour tricher au jeu. Donc on a fait ça avec des visages, mais ça c'était déjà connu. On a fait ça avec de l'écriture manuscrite. Donc en gros, il vous donne des samples d'écriture et vous devez dire si c'est un homme qui a écrit ou une machine. Ça, c'est super dur. C'est vraiment très, très compliqué de faire la différence. Mais par contre, donc ça, c'est un projet de recherche qui est à l'Université de Nantes, donc avec la fameuse appli de reconnaissance, de diagnostic de la dysgraphie. C'est qu'ils avaient besoin de reconnaître l'écriture humaine. Donc, du coup, ils se sont retrouvés à faire une IA qui fait de la reconnaissance d'écriture et de lettres. Seulement si elle sait reconnaître les lettres, elle est à la fois discriminante, mais elle peut aussi éventuellement générer. Donc là, ils sont allés jusqu'au bout, ils l'ont fait générer en fait, de l'écriture. Donc elle limite des écritures de personnes. Et c'est assez intéressant la manière dont ils ont conçu ça, parce que là, si vous commencez à voir un peu l'architecture, je vous ai dit qu'il faut des données. Donc, par exemple, si je veux faire des visages humains, je lui donne des visages humains à voir, et du coup, il va réussir à m'en créer. Si je veux faire une écriture, on peut se dire, je vais lui donner des lettres. Et on ferait une espèce de bibliothèque de lettres où je vous ferais tous écrire, là, et puis on prendrait toutes les lignes de A, toutes les lignes de B, tout ça. Seulement, on voit bien que c'est pas trop comme ça que ça marche, parce que quand on écrit, on va faire des liens un peu bizarres, on n'écrit pas la même lettre, si elle est au début ou à la fin du mot, ou en fonction de la lettre qui vient après. Il y a même des personnes qui écrivent deux fois la même lettre, qui écrivent la même lettre, pas de la même manière, en fonction de l'emplacement. Donc ça marcherait pas comme ça. Donc ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont étudié le mouvement de la main humaine quand elle écrit. Donc en gros, ils ont juste pris le mouvement de la main, et en fait, ce que copie l'IA, c'est une main humaine qui écrit, quoi. Donc en gros, elle fait ça, et puis vous voyez le mot patate. Donc c'est à peu près ce qui est aussi ce qui peut se passer sur la génération d'images dont je vais vous montrer un peu l'architecture après. Donc dans beaucoup des exemples qu'on donne, là que nous on construit par exemple, donc encore une fois, ce qu'on construit comme en MOOC, ça peut s'adresser à des très jeunes, donc on procède vraiment par étapes. Et donc là c'est un petit bout de l'interface du MOOC qui sortira en mars de ClassCode. Vous avez des exercices comme ça, par exemple, vous avez votre bibliothèque intégrée et vous allez lui faire piocher des images pour lui faire apprendre. Donc vous identifiez par exemple des images de burgers, vous prenez des images de vélo, vous êtes en train de construire une bibliothèque, donc il a des modèles, des références pour choisir si c'est tel ou tel objet. Et vous, donc ça c'est ce qu'on appelle la phase d'apprentissage, et une fois que vous avez appris à votre modèle, vous pouvez avoir des réponses en l'interrogeant. Donc là, par exemple, il s'agit d'un chat à 99%. Voilà. Sauf que si vous mettez quelque chose qui n'était pas dans sa bibliothèque, par exemple, si vous lui montrez un vélo, et que lui, il a appris à reconnaître que les burgers et les chats, il va sûrement vous dire que votre vélo, c'est à 66% un chat, et le reste, ça doit être un burger. Parce qu'il ne connaît pas d'autre chose. Donc procéder comme ça, ça permet vraiment de comprendre, en fait, voilà, aussi que, encore une fois, dans l'exemple, que l'ordinateur est assez idiot, il ne fait qu'avec ce qu'on lui dit. Donc il n'y a pas un truc miraculeux, il va vous dire j'ai trouvé grâce à voilà que c'était ça, c'est un chat. Il ne fait qu'avec ce qu'il connaît et ce que vous lui avez donné comme information. Donc souvent, dans les exemples qu'on va trouver en pédagogie, on va s'en tenir à ça. On fait les bibliothèques, on les trie, on fait de la reconnaissance d'image. On peut faire de la reconnaissance d'image, c'est assez facile à faire, ou de la génération d'image. On a rarement l'architecture. Donc je vais vous donner quelques éléments pour essayer de vous expliquer un peu comment ça fonctionne dans le détail. Donc nous, par exemple, on a fait, en plus de l'appli, là, on a fait un générateur de chat. Donc je vous donnerai dans les sources à la fin, il y a un GitHub, tout est open source, c'est super bien documenté. Vous avez le dataset, donc il y a de mémoire, il y a 9000 images de chats, toujours mignon. Et votre générateur, donc c'est une IA génératrice d'images. Donc tout ce qu'elle fait, c'est que quand on appuie sur le bouton, elle vous génère un nouveau chat qui n'a jamais existé. Donc nous, on l'a fait tourner, on a utilisé ce modèle d'apprentissage-là sur l'ordinateur de l'université. Ça permet aussi de voir en fait le temps qu'il faut pour faire ça, parce que ça, vous le faites en tuto, vous le faites de manière immédiate. En réalité, la phase d'apprentissage, elle est super longue. Encore une fois, le but, c'est de bouger tous les boutons, de trouver la bonne courbe, de réduire les erreurs, de faire des allers-retours, de faire ça des millions de fois, d'interroger à chaque fois pour savoir si on se rapproche du bon résultat. Si vous le faites, donc par exemple, sur le générateur de chat qu'on a fait, si je le faisais sur ce PC-là, ça mettrait à peu près 10 ans à converger pour que j'ai mon générateur de chat. Là, nous, on l'a fait tourner sur le supercalculateur de l'université. Ils étaient très contents qu'on utilise ça pour ça. Donc, on a mis 48 heures. Voilà. Mais effectivement, on est sur des PC beaucoup plus puissants et la puissance de calcul, ça sert à ça, à faire tous ces allers-retours et ce calcul. Donc, en gros, pour générer des chats, ce qu'on veut faire, c'est que on ait un nombre aléatoire en entrée et que ce nombre aléatoire passe à travers un générateur qui nous produise une photo de chat. Pour savoir si ce chat est bien fait ou pas, on va avoir besoin d'un discriminateur dont le job, ça va juste être de dire ton chat, il correspond à ce que j'attends en termes d'image de chat ou il ne correspond pas. Donc le discriminateur, lui, ce qu'il va avoir, c'est le set d'entraînement. Et tout ce qu'il doit dire, si c'est ce qu'on lui propose, c'est une photo de vrai chat ou une photo de faux chat. Donc là, vous avez voilà, un petit... Donc ça, c'est que des faux chats qui ont été créés. Et vous avez l'évolution, on va dire, de la construction de cette image-là. Donc si on voulait schématiser vraiment la manière dont ça se passe, c'est que vous avez un générateur d'un côté et un discriminateur de l'autre. Le discriminateur, il a tout votre dataset. Il a les photos de vrais chats, certifiés vrais chats. Il sait super bien ce que c'est qu'un vrai chat. Le générateur, lui, il connaît rien du tout. Il sait même pas qu'il doit faire un chat. Lui, on lui demande de dessiner des trucs, et au début, de manière aléatoire. Donc voilà, il teste, hein, il tente, et il envoie ça, il envoie des données. Donc si on voulait, concrètement, ce qui se passe, c'est qu'une image, ça reste des pixels, et qu'on va prendre tous ces pixels-là, en fonction de la résolution. Là, tout à l'heure, par exemple, j'avais mon chat en 400 par 400, bah, il faut que je mette des couleurs sur mes 400 pixels, et puis que je croise les doigts pour savoir si c'est un chat super réaliste. Peu probable que ça marche du premier coup, mais en gros, vu qu'il n'a pas d'autres consignes, il va tester ça et il met au début des nombres aléatoires. Le discriminateur, forcément, lui, il sait ce que c'est qu'un vrai chat, il a des exemples, donc il va lui dire « Non, non, là, t'es loin du compte, c'est pas du tout ça que j'attends de toi. » Donc le générateur va retourner au boulot, il va changer ses paramètres, il va bouger ses petits boutons et il va changer ses poids et il va essayer de faire une autre répartition de ces informations pour produire une autre proposition. Si ça marche toujours pas, il va le reproduire jusqu'à ce qu'il arrive à obtenir un résultat attendu et que le discriminateur finalement valide sa proposition. Alors le but du jeu, c'est que vous ayez un équilibre entre le discriminateur et le générateur. Vous vous doutez bien que, imaginons que vous fassiez ça, vous commencez la peinture, et puis voilà, vous faites votre premier tableau et vous allez directement voir un super critique d'art à New York. Normalement, il va vous dire que c'est nul. Et vous allez peut-être arrêter la peinture à cause de ça. Donc le but, c'est que le discriminateur ne soit pas trop dur et trop exigeant pour permettre au générateur d'apprendre. Mais s'il est trop sympa avec lui, il ne va rien apprendre non plus, s'il lui valide des fausses images. Donc en gros, l'idée, c'est de gérer un peu cet apprentissage-là entre le générateur et le discriminateur pour qu'ils puissent évoluer ensemble et apprendre l'un l'autre et faire des allers-retours qui soient pertinents pour que chacun et surtout le générateur apprennent. Donc ça, c'est ce qui se passe des millions de fois jusqu'à ce qu'on arrive à trouver, en gros, à bouger les bons boutons au fur et à mesure pour progresser et réussir à produire une image qui ressemble à quelque chose. Donc là, tout à l'heure, vous voyez sur le chat, ici, là, sur la petite animation. Au début, vous avez un espèce de truc qui est très... voilà, très pixelisé, et l'image émerge au fur et à mesure. Donc c'est vraiment comme ça, c'est une espèce de... Au fur et à mesure, il va de plus en plus préciser les choses, parce que comme je vous le disais, si on essaye de faire une image en 1080p avec beaucoup de pixels d'un coup, c'est vraiment d'autant plus compliqué. Donc on va démarrer avec une répartition de pixels plus faible, et on va augmenter en gros la précision à chaque couche. Donc ça donne quelque chose comme ça. Donc là, vous avez un filtre, je vais aller prendre mon image, et le but du jeu, c'est de décider si, à la fin, c'est un chien, un chat ou un oiseau. Puisque je ne peux pas prendre tous mes pixels un par un, cette architecture-là, le but de cette architecture-là, c'est de simplifier en prenant une espèce, on va dire, une espèce de loop, un peu comme, comme sur un canevas, et il va prendre un ensemble de l'image. Il va dire, bon, ok, je prends ces pixels-là, je vais leur attribuer une valeur. Donc là, vous avez la fameuse valeur pondérée. Voilà, soit c'est un 1, soit c'est un 0, soit c'est moins 1. Il va le faire passer et à chaque nœud. Et le but du jeu, c'est de augmenter au fur et à mesure le nombre d'images, le nombre de carrés qu'il va prendre. Donc finalement, la résolution. Ce truc-là, on le glisse, en fait. Le but, c'est de prendre... Vous allez prendre ce carré-là et ensuite, vous allez le décaser d'une case. Donc en gros, on fait du lien entre les différents pixels. Et le but du jeu, c'est d'apprendre qu'à côté de ce pixel-là, en général, on trouve ce type de pixel-là. Et c'est pour ça que vous avez une espèce d'émergence comme ça de l'image qui augmente en précision au fur et à mesure. Donc dans le fonctionnement, ce n'est pas très compliqué. Là, vous avez une représentation complète. Voilà, un chiffre aléatoire du 4 par 4, du 8 par 8, du 16 par 16, 32 par 32. Et ici, vous avez la même chose de l'autre côté. Quand je vous dis que c'est un canevas, le discriminateur, lui, il fait la même chose de son côté. En gros, le canevas permet de projeter le chiffre aléatoire et lui de donner un résultat concret. Donc lui, il le prend en fait dans l'autre sens. Il va prendre ce résultat-là, il le passe à travers son filtre et il doit tomber sur quelque chose qui correspond finalement à ce qu'il a dans sa base de données comme étant une image, une vraie image validée. Et c'est pour ça qu'on se retrouve quand même avec des trucs très précis et qui sont, on ne fait pas forcément la différence parce que, après tout ce que fait là le réseau de neurones, c'est, il dit... Voilà, j'essaye de dessiner un truc, j'organise les pixels comme ça, et avec cet aller-retour de questions-réponses, ce qui produit à la fin, c'est « Ah, d'accord, ok, tu veux que je mette les pixels dans cet ordre-là. » Nous, on voit un visage humain. Lui, il ne fait que agencer des pixels dans un ordre à peu près cohérent avec les modèles qu'on lui a donnés, enfin les exemples qu'on lui a donnés. Donc après, quand ça fonctionne, on peut faire des petits trucs marrants comme ça. Donc ça, c'est l'autre appli dont je vous parlais, qui est aussi une appli de Google. Donc ça, vous pouvez la tester en live. Voilà. On prend une webcam, on appuie sur « Prendre les informations ». On va créer une première catégorie. Ensuite, on crée une deuxième catégorie. Donc là, il y a la personne et son chien. Voilà, donc, enfin, là, elle prend juste son chien. Ensuite, une fois que le modèle a appris, donc une fois qu'on a l'entraînement, il est capable de faire la différence entre les deux catégories qu'on lui a montrées. Donc là, il y a elle, ou moi et mon chien, et il va faire... Ça marche super bien. Vous pouvez le faire tout seul chez vous avec une webcam et une tasse à café. Donc on crée le dataset en live, on prend des exemples de l'objet qu'on veut reconnaître, on l'identifie, on lui donne une catégorie. Et une fois qu'il a ces deux catégories-là, on présente les deux images à la caméra, il va réussir à faire la distinction dans l'image de la catégorie A ou de la catégorie B. Donc ça, ils l'ont proposé en image, vous l'avez aussi en son. Donc vous pouvez distinguer deux samples de son, n'importe quel son. Et vous avez aussi de la reconnaissance de mouvement. Donc un peu dans ce qui fonctionne un peu sur le modèle de Kinect, sauf que vous pouvez le faire avec une webcam, et en fait, il duplique directement votre squelette. Donc c'est des technologies qui étaient encore... pas hyper répandu, un peu compliqué. Là, vous pouvez le faire avec une webcam en live et ça marche plutôt bien. D'autres exemples, donc en débranché, nous on essaye, donc, pour l'instant on n'en a pas beaucoup, on aimerait bien en développer, notamment voilà, sur la fameuse descente de gradient, on essaye de trouver des idées pour rendre ça concret, parce que le débranché c'est vraiment... un support qui fonctionne très bien pour parler d'informatique et de rendre concret ces concepts-là. Un des outils qu'on a testé et qui fonctionne très très bien, c'est celui-là, c'est l'Hexapound. Donc, il a été créé par Martin Gardner. Et le but, c'est d'illustrer l'apprentissage par renforcement. Donc, en gros, vous avez un petit jeu qui est très simple avec... un damier de 3 par 3. Vous allez jouer, donc si vous êtes enseignant par exemple, vous jouez l'IA, donc vous faites que ce que les boîtes d'allumettes vont vous dire, et vous allez jouer contre un humain qui va jouer contre vous. Le but du jeu, c'est, donc vous avez trois manières de gagner, soit vous arrivez à amener un de vos pions dans le camp adverse, donc sur la dernière ligne, soit vous arrivez à manger tous les pions adverses, donc on les mange en diagonale, soit vous arrivez à bloquer le jeu. Donc par exemple, si là il y avait les deux pions noirs, ce pion noir-là avançait et que j'avançais ici, le joueur blanc ne pourrait ni manger ni avancer, donc il a perdu. Donc les règles sont simples, vous lancez la partie, donc c'est le joueur humain toujours qui commence, il va faire le premier coup, et ensuite vous allez vous référer à la boîte qui concerne le coup qui a été joué. Donc au premier tour, par exemple, il n'y a que deux manières de jouer, c'est soit l'humain a joué au milieu, soit il a joué sur un coup latéral. Donc c'est un principe par miroir, ce qui fait que jouer à gauche ou jouer à droite, ça revient au même. Donc s'il a joué au milieu, par exemple, vous allez prendre la boîte ici, et vous avez deux réponses. C'est soit de manger le pion, soit d'avancer un des deux pions sur la ligne. Donc vous prenez votre boîte, et dedans il y a un nombre de perles qui correspond au nombre de coups potentiels, au nombre de coups possibles à jouer. Vous secouez la boîte, vous prenez au hasard, c'est important, une perle, et vous allez jouer le coup pour la machine. Donc vous continuez de jouer comme ça, c'est à l'humain de continuer, etc. Et la partie se déroule jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant. Donc si c'est l'IA qui a gagné, elle n'a rien appris, du coup c'est qu'elle a bien joué. Si par contre l'IA perd, vous allez prendre le dernier coup qui a été joué par l'humain, et vous allez retirer la perle qui a fait perdre la machine. Donc si la machine a laissé passer un coup, vous retirez la perle, et on remet le jeu à zéro, et on refait une partie. Le principe, c'est qu'au bout d'un certain nombre de parties, en général 7, 6, 7, donc ça dépend si vous avez de la chance ou pas, mais entre 6 et 10 parties, le modèle converge. Donc en 10 parties, vous partez d'une machine en boîte d'allumettes qui est complètement nulle et qui fait un peu n'importe quoi, à une machine imbattable. Donc là, vous avez vraiment ce concept-là que vous voyez avancer et vous vous faites battre par des boîtes d'allumettes et vous voyez un petit peu l'apprentissage qui progresse au fur et à mesure. Donc ça, on est sur le même principe que finalement le jeu de Nîmes, avec c'est un algorithme optimal aussi, ça c'est un jeu résolu. Donc en fait, tout ce qu'on fait, c'est que les boîtes d'allumettes représentent l'arbre des possibles en entier et on va juste couper les branches qui ne servent à rien. Et on va tendre vers l'algorithme optimal qui est un peu plus caché qu'avec le jeu de Nîmes. Donc ça renforce aussi ce côté-là de se dire... les boîtes d'allumettes sont en train d'apprendre. Quand on joue avec des petits, ils ont vraiment cette impression-là. Et elle devient effectivement de plus en plus forte. Et au bout d'un temps, on n'arrive plus effectivement à gagner. Ça permet aussi de développer des stratégies un peu différentes. Par exemple, si on est humain et qu'on veut essayer de gagner et qu'on voit bien qu'il y a certains coups qui ont déjà été compris par la machine, on va devoir essayer de tricher un peu, entre guillemets. Donc en gros, la meilleure manière qu'on a de gagner, c'est d'aller vers des coups qui n'ont pas été joués encore, ou qui ont beaucoup de possibilités. Parce que moi, je vais tirer au hasard, donc elle peut prendre des décisions pas logiques, quoi. Et ça, c'est super intéressant, parce que les joueurs évitent des coups simples en se disant « Ouais, non, mais si je fais ça, elle va gagner au tour d'après. » Bah non, déjà, je tire au hasard, donc je vais prendre la décision. Voilà. Vous pouvez avoir pas de chance, mais donc ça permet de penser un petit peu différemment et de créer des stratégies d'évitement pour essayer d'aller un petit peu plus loin avant que la machine, de toute façon, devienne imbattable. Après, vous avez d'autres variantes. Au lieu de faire de la punition, par exemple, on peut faire du vrai renforcement. Donc, à chaque fois qu'elle va gagner, bah, vous rajoutez une perle de la couleur qui l'a fait gagner. Donc ça, ça a un avantage, c'est que vous avez toujours une chance pour l'humain de gagner. Vous faites qu'augmenter statistiquement les chances de la machine à bien jouer, mais vous avez toujours une chance de gagner en tant qu'humain. L'inconvénient, c'est que c'est beaucoup plus long. Donc ça, c'est des petits trucs rigolos à faire. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez le faire en Python après. Parce que finalement, voilà, là, vous avez un algorithme optimal qui est un peu plus caché, on va dire, que sur un jeu de Nîmes. Mais il y a juste un arbre complet. Le but, c'est de l'explorer. Et si vous arrivez à créer ce jeu-là sous Python, bah, vous faites jouer la machine contre elle-même. Au bout d'un temps, elle va tomber sur cet algorithme optimal. Donc vous pouvez faire votre propre IA. Nous, on l'a fait sous Python. Ça prend quelques minutes. Et au bout de à peu près 10 000 parties, elle trouve la manière parfaite de jouer au jeu. Donc ça date de 62, ça, pour vous donner cet exemple-là. Donc il y a plein d'autres jeux de Gardner, voilà, dont un livre de magie en mathématiques pour utiliser des allumettes. Donc vu que vous trimballerez avec 24 boîtes d'allumettes, ça vous donne des matières pour les utiliser autrement. Voilà, et pour finir, je voulais parler un petit peu des enjeux de l'enseignement de l'intelligence artificielle, à la fois pour les élèves et aussi pour les citoyens. Parce que c'est, voilà, comme au même titre qu'en sciences numériques et technologies, on peut parler d'un même thème de différentes manières. Pour les enseignants, voilà, faire parler par exemple des réseaux sociaux, on peut expliquer la théorie des graphes, et c'est super, mais parler du cyberharcèlement, c'est aussi super important. Sauf que c'est pas la même approche. Ça peut paraître pour certains plus compliqué. Et le but, c'est aussi de pouvoir aborder les questions sociétales et éthiques qu'il y a derrière l'intelligence artificielle. Donc, hors pair, on peut avoir... voilà, moi, je suis allé piocher un peu partout des publications sur des avis ou des préconisations sur l'intelligence artificielle. Donc là, par exemple, j'ai un principe de la ville de Nantes sur la publication et la transparence des algorithmes. Donc, par exemple, la ville de Nantes ne peut pas collecter des données dont elle n'a pas un besoin immédiat pour pour une utilisation concrète dans un algorithme. En fait, ils font exactement l'inverse des États-Unis surtout, où le but c'est on récupère un maximum de données, même si ça sert à rien et qu'on ne sait pas encore quoi en faire, parce que quand on en aura besoin, on les aura. En France et à Nantes, le principe c'était si vous ne pouvez pas prouver à quoi sert une donnée, ça ne sert à rien de la collecter. Donc ça, c'est à la fois protecteur, mais ça peut être super risqué aussi, parce que si on se rend compte dans 10 ans qu'on avait besoin des données de collecte d'eau ou de transport, ou etc., on ne les aura pas, alors que les Américains ont 10 ou 20 ans de data déjà d'avance. Et ça, c'est un thème super intéressant. Aujourd'hui, il y a, sur la récolte des données, notamment par les entreprises, même les villes et même les pays ont du mal à lutter aussi contre ces entreprises-là. Aujourd'hui, il y avait une autre conférence à Nantes où il y avait la représentante de la ville de Nantes et de la ville de Montréal qui discutaient justement d'alliances entre villes pour justement avoir les ressources légales pour réclamer les données. Puisque en France, si vous êtes prestataire, finalement, si vous produisez des données, elles vous appartiennent en tant qu'entreprise. Vous avez eu un marché, moi j'ai eu le marché de l'eau, ou les marchés Linky, j'ai vos données Linky, c'est moi qui ai le marché, donc c'est à moi, je suis responsable des données. Ce qui veut dire aussi que normalement, je n'ai pas à les donner au gouvernement, et que je dois les garder pour moi, et je peux en faire un peu ce que je veux. Et aujourd'hui, on n'a pas vraiment de recours en fait, légaux là-dessus. Et du coup, les villes sont obligées de céder un petit peu pour aller chercher des solutions pour en fait, que les villes récupèrent les données de leurs citoyens et qu'elles y aient accès pour pouvoir à la fois les protéger et les exploiter dans d'autres cadres que des cadres commerciaux. Et donc, il y avait des alliances entre des villes, voilà, de Nantes, Paris, Montréal, New York, et qui, en fait, communiquent sur nous, on a obtenu telle ou telle donnée en envoyant tel document, de comparer aussi voilà, des villes qui ont obtenu plus de données, par exemple, d'Amazon ou de Google. Alors, du coup, ils savaient que ces données existaient. Et rien que de le dire, la ville peut se dire aussi, mais on sait que vous avez aussi toutes ces autres données, on aimerait les récupérer. Sur Amazon, par exemple, il y avait des deals sur donc les fameuses trottinettes électriques. Donc, ils sont géolocalisés. Donc, le but pour eux, c'est aussi de faire en fait, du mapping de ville, en fait, puisqu'elles circulent. Et donc, du coup, c'est un peu comme des Google Cars gratuites que vous faites vous-même tourner. Et donc, la ville avait négocié avec Amazon pour dire voilà, il y avait des vrais problèmes de circulation de ces trottinettes, notamment sur les trottoirs. Donc ils négocient avec la firme et leur solution c'était ok, on peut développer une solution pour empêcher que les gens roulent sur les trottoirs et ça se bloquera directement si on roule sur un trottoir. Ouais super, mais c'est quoi cette solution miracle? Il suffit qu'on rajoute une toute petite caméra devant et puis comme ça du coup on sait exactement si la personne est sur le trottoir et on fait une alerte et on bloque du coup la trottinette. Donc en gros on rajoute une caméra pour encore une fois filmer la ville et faire du mapping encore plus précis. Mais on répond à la question, enfin à la problématique qui a été posée. Donc ils n'ont pas accepté cette solution-là, mais on voit bien voilà, les enjeux qu'il peut y avoir derrière, même sur du prêt de matériel qui peut être mis à disposition. Donc là, c'est un autre Naonadia, c'est un consortium nantais d'entreprises qui a fait une charte sur l'utilisation de l'IA par les entreprises. Là, vous avez les préconisations de l'UESCO en haut à droite. Ici, c'est un rapport du ministère sur donner un sens à l'intelligence artificielle. Donc, en gros, il y a plein de sources, plein de préconisations, plein de limitations, plein d'avis. Après, il reste ce que la loi définit ou ce qu'elle ne définit pas. Le reste, ça peut être juste des intentions. Mais voilà, ça vous donne un peu le paysage qui est en fait complexe sur ce qu'on peut faire, doit faire, etc. L'UNESCO, par exemple, elle fait des préconisations pour les pays qui ne peuvent pas, soit en termes de moyens de recherche ou d'analyse, ou de mise en œuvre de politiques locales, avoir une politique sur, par exemple, ces nouvelles technologies-là. Donc elle fait des préconisations générales sur l'utilisation des données ou de l'intelligence artificielle. Donc pour les citoyens, on peut l'interroger de plein de manières. Hein. On peut trouver des super idées de quotidiennes en fait, d'utilisation. Donc nous, par exemple, là, on va tester c'est le 6 février à la Nuit Blanche des chercheurs, un petit atelier citoyen. Donc en gros, on va mettre à disposition des citoyens des spécialistes en intelligence artificielle et en mathématiques pour les aider à décortiquer un petit peu les algorithmes du quotidien. Donc on a choisi de prendre le bien connu Parcoursup, parce qu'il est d'actualité, et de montrer l'évolution aussi. Donc il y a aussi des choses positives là-dedans, et ça montre vraiment que c'est quelque chose d'actuel. Là, c'est l'algorithme de BPA, admission post-bac, ABP, APB. Admission post-bac, qui était l'algorithme avant Parcoursup. En gros, ce qui s'est passé, c'est que donc, c'était déjà dans la loi, mais la loi a été réaffirmée en 2016. Elle dit que pour tout algorithme qui prend une décision pour un citoyen, vous, citoyen, vous avez le droit d'avoir un accès à cet algorithme. Si c'est un algorithme du gouvernement, quel qu'il soit, s'il calcule quelque chose, vous devez pouvoir savoir ce qu'il calcule et comment ça fonctionne. C'est le cas pour le calcul des ACEDIC ou des impôts ou de Parcoursup. Donc il faut quand même s'accrocher, hein. Tout ça vous l'avez en ligne, hein. Vous pouvez avoir l'algorithme de calcul des impôts ou rien que celui de Pôle emploi, c'est juste génial aussi. Donc il faut avoir fait à peu près 2 ans de maths sup pour comprendre le fonctionnement du machin. Mais voilà, mais vous l'avez, il est en libre accès et il est transparent. Et c'est un mot très important. Donc, l'algorithme était, prenez ces décisions-là, et il y a une association étudiante qui a porté plainte pour obtenir, en gros, un regard sur cet algorithme, parce qu'on ne savait pas ce qu'il faisait. Et donc ça, c'est un extrait de ce qu'a envoyé le ministère de l'Éducation à cette association-là. Donc il y a 8 pages comme ça, en PDF, de code. Voilà, donc, juste 8 pages de PDF de code. Donc inexploitable, où il fallait le recopier, ce qu'ils ont fait. Ils l'ont recopié, ils l'ont compilé, ils l'ont mis pour le tester, ça ne marchait pas. Ils ont demandé pourquoi ça ne marche pas. Là, il n'y a pas eu de réponse particulière. Il y avait des fonctions qui n'étaient pas définies, il y avait des bouts qui manquaient, il y a des fonctions qui sont... Voilà, c'est, là, on peut lire, même si vous ne savez pas trop coder, mais voilà, en général, une fonction, on essaye d'expliquer, au moins en commentaire ou dans son nom, à peu près ce qu'elle est censée faire. Là, c'est des suites de chiffres ou de lettres. Voilà, vous avez la fonction BW47. Super, on ne sait pas ce qu'elle fait, elle est appelée, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Voilà. Donc on ne pouvait rien exploiter de ça, ça a fait pas mal de bad buzz. L'autre bad buzz, c'était que, en gros, le fonctionnement d'APB, d'admission post-bac, fonctionnait plutôt bien. Le but, c'était de faire du lien entre les étudiants et les établissements scolaires et de faire de l'apairement le plus juste possible. Ce truc-là fonctionnait avec une règle mathématique qui est idéal pour faire ce qu'on appelle les mariages par paire équilibrés. Ça fonctionne bien, sauf qu'à un moment donné, on se retrouvait à avoir... Donc on avait des paires qui étaient bien faites, sauf qu'il y avait plus d'étudiants que d'établissements. Donc il fallait enlever des étudiants. Donc jusque-là, tout allait bien, mais pour enlever des étudiants, le choix qui a été fait, c'était on prend au hasard et puis on en vire la moitié. Donc il y avait une fonction aléatoire qui prenait, voilà, vous étiez placé avec votre système d'apairement qui est parfait, qui respectait le maximum le choix et de l'établissement et de l'étudiant, mais une fois que tout le monde était placé, vous étiez à la roulette, et puis il y en avait une partie qui devait sortir de la liste. Donc ça, ça a été mal vu, et c'est pour ça que, c'est une des raisons pour lesquelles APB est tombée. Et ils ont du coup... proposé Parcoursup, et ils n'ont pas fait 2 fois la même erreur, ils se sont dit, cette fois-ci, on va documenter, expliquer, et on était, c'est 3 ans plus tard, donc on est en plein dans l'algorithme transparent, et ils ont fait une super documentation. Donc vous avez tout ça sur GitHub, vous l'avez, il y a le dossier complet, il y a des pages de doc, il y a du PDF qui vous explique toutes les formules mathématiques, vous l'avez, vous pouvez l'explorer un peu en Java, vous l'avez en Python, vous pouvez vraiment tester des choses. C'est très bien documenté, c'est transparent. Et nous, la question qu'on s'est posée, donc on va tester ça en février, c'est mais qu'est-ce qu'on en fait ça? Est-ce que les gens comprennent ça? Et quel niveau de compréhension il faut pour pouvoir manipuler des choses comme ça? Qui sont encore une fois des exemples parfaits de transparence. On peut difficilement mieux faire. Sauf que ça reste compliqué, quoi. Donc là, ce qu'on va proposer aux gens, c'est on prend 10 personnes, 10 citoyens lambda qui ne savent pas forcément coder, et on leur donne une demi-journée avec un expert en mathématiques, un expert en informatique, avec la documentation fournie par le ministère, pour voir ce qu'ils peuvent faire avec. C'est à eux de fournir leurs propres objectifs, soit par exemple d'avoir un ensemble de notes et de prédire s'ils vont pouvoir être pris par l'établissement, soit de savoir si, sur une réponse donnée, par exemple, pourquoi ils ont été pris ou pas pris. Ils fixeront eux-mêmes leurs objectifs, mais l'idée c'est de leur donner tous les moyens pour comprendre et exploiter ça. Et la question qu'on pose derrière, c'est est-ce que ça suffit que ce soit transparent? Parce que quand on parle de ça, même à des enseignants ou des inspecteurs, etc., il peut y avoir des réponses du type Oui, mais bon, si c'est transparent, s'il y avait un problème, on le saurait. Sauf que qui va faire ça ? Merci. Qui va faire ça ? Qui va aller vérifier l'info ? Qui va l'expliquer ? Donc soit on part du principe que c'est le gouvernement qui a produit ça, donc qu'on part du principe que c'est bien fait, ou juste, ou égalitaire, etc. Soit il faut compter sur des tiers, donc ça peut être des scientifiques, ça peut être des associations, mais du coup, quels tiers, quels moyens ça leur demande, est-ce qu'ils sont soutenus, est-ce qu'ils sont indépendants, etc. En gros, on passe par un tiers de confiance, et ça, ça peut être problématique. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'on peut se passer de ce tiers-là ou pas, ou est-ce qu'on peut, nous-mêmes, en tant que citoyens, s'approprier ce genre de choses-là. Donc voilà, donc on va tester un petit peu ça sur de mettre la mise en relation entre citoyens et chercheurs pour aller explorer ça. Donc là, on peut le faire parce que c'est des algorithmes, voilà, encore une fois, de l'État, donc on y a accès. Il y en a plein qui sont complètement transparents et qui sont encore plus quotidiens. Le plus connu, c'est sûrement le fameux algorithme du truc à course. Là. Si vous faites vos courses avec les petits bips, voilà, vous bipez vos machins chez Leclerc et ensuite vous passez à la caisse et là, on vous dit relecture ou pas relecture. Et donc sur la documentation de Leclerc, vous voyez que c'est marqué que le choix est aléatoire. C'est tout, c'est juste aléatoire. Mais ça, on n'en sait rien. Parce que du coup, on est sur une société privée. Est-ce qu'il prend en compte le montant de votre panier ? Est-ce qu'il prend en compte le fait que la dernière fois, vous avez oublié un produit ? Est-ce qu'il prend en compte des produits plus à risque, comme, je sais pas moi, des produits de technologie ou l'alcool ou, voilà. Donc ça, on n'en sait rien. On ne peut pas l'explorer, mais on est concrètement sur un algorithme de décision quotidien et qui peut avoir des propriétés super intéressantes, même si on n'a pas accès. Voilà, donc de manière générale, de toute façon, l'intelligence artificielle, elle touche à peu près tous les domaines et elle apporte des choses intéressantes. Voilà, en sémantique, vous avez, nous, on a une équipe qui travaille, par exemple, sur la mise en relation de la comparaison de corpus. Donc c'est super intéressant parce que là, on fait de la sémantique, on fait de l'histoire avec des mathématiques, clairement. Donc on prend des textes, on va prendre les mots, on va mettre des liens entre ces mots-là, en leur donnant des rapports avec, par exemple, plus ou moins trois mots, donc les trois mots d'avant, les trois mots d'après. On regarde un petit peu les relations qui se mettent, et on va projeter tous ces mots-là dans un plan, en trois dimensions, un peu comme si on avait un nuage de mots, avec des valeurs, et c'est juste des chiffres. Ensuite, une fois qu'ils en sont là, eux, il n'y a plus un seul mot qui apparaît, ils arrivent à faire du lien sémantique, alors qu'ils ne savent même pas de quel mot il s'agit, c'est juste une question de valeur. Et ils peuvent comparer, par exemple, des corpus, donc si je prends, par exemple, le mot couverture, que je suis dans un corpus de, je sais pas moi, de romans du 19e, je vais avoir voilà, couverture en laine, couverture chaude, couverture genou, je ne sais pas quoi. Si par contre je prends un corpus médical, je vais avoir couverture médicale, couverture dentaire, couverture... voilà, et je vais avoir les mots qui sont autour de mon mot vont être complètement différents. Et on peut comparer les choses comme ça juste en projection de valeurs. Et on peut découvrir, du coup, bah, ça peut mettre en avant par exemple des exceptions. Donc, par exemple, ils avaient un exemple sur un corpus, donc il me semble que c'était... de la littérature anglaise du 17e, et ils avaient le mot marché, un marché, market, qui était lié à guerre, mort, meurtre, voilà, ils ne comprenaient pas pourquoi. Donc ils sont allés chercher, ils ont demandé à un historien qui leur a dit oui, mais parce que dans en Angleterre, à cette époque-là, au nord de l'Angleterre, il y a eu je ne me rappelle plus du terme exact, mais en gros, la journée du marché, et qui avait été. Des soldats ont tué, en fait, une cinquantaine de personnes un jour de marché suite à une révolte. Et que du coup, on avait cette occurrence-là super liée, mais uniquement sur cette époque-là, à cet endroit-là, dans cette langue-là. On a des occurrences plus rigolotes, par exemple, avec l'évolution du langage, on peut avoir toutes les langues s'adaptent pour essayer de faire des variations sur l'écriture inclusive. Donc nous, on a les E, etc. Et en fait, toutes les langues sont différentes, donc forcément, elles ne vont pas travailler ça. Elles ont toutes cette volonté-là de le faire. Il y a toutes des expérimentations sur la page Wikipédia. Si vous regardez, vous pourrez avoir sur toutes les langues la manière dont elle a évolué pour justement éviter la définition par le genre. Donc nous, on a du masculin-féminin, donc forcément, voilà, là, on a fait le choix, nous, de mettre le masculin et le féminin. En anglais, par exemple, il n'y a pas ce problème-là. Donc il n'y a pas de masculin et de féminin, mais on a, sur les pronoms personnels, on a le « he » et « she ». Et le but, c'était d'éviter « he » et « she », et donc ils sont revenus à utiliser le mot « they ». Donc en gros, en tant que terme non défini, Donc, quand on parle de quelqu'un qui ne se définit pas sexuellement, on peut dire « they », etc. Voilà, et ça fait qu'on ne dit pas si c'est lui ou elle, en gros. Et en fait, ils ont vu qu'il y avait des liens entre ça, cette utilisation-là sur Twitter, et Shakespeare. Donc, ça fait « ok, pourquoi ?» Et donc, ils sont revenus, et en fait, en ancien anglais, le mot « they » peut être utilisé comme un pronom indéfini. Et en fait, on retrouve ça dans les textes de Shakespeare. Donc on avait des liens entre les écrits de Shakespeare et des tweets d'il y a 2 ans sur des fils féministes ou inclusifs. Voilà. Donc bref, de la sémantique en mathématiques avec de l'IA dedans. Ça, c'est un tableau qui est fait, donc ça s'appelle Deep Dream. Donc c'est une IA qui fait des tableaux on lui présente des images et en gros, elle fait une représentation générale de rêve. Donc elle mélange des trucs, elle s'inspire, donc pareil, ça passe par des mots, ça lui donne des couleurs, et du coup, elle fait une espèce de peinture très, 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 très abstraite avec les informations qu'on lui met. En philosophie, forcément, on va devoir évoquer, voilà, on parle d'intelligence, on parle de... Pourquoi on parle d'intelligence ? Nous, c'est un des thèmes, quand on a travaillé sur le MOOC IA qui a posé problème rapidement, c'est quel type de mots on doit employer. Donc si on dit intelligence, on va devoir dire, par exemple, on a essayé de développer, est-ce qu'on doit faire confiance à la machine ? Donc là, on est sur du langage qui est très très personnifiant, quoi. L'IA est intelligente, on doit lui faire confiance, on doit travailler avec elle, alors qu'on pourrait très bien dire que c'est juste un outil qu'on doit utiliser comme une calculatrice et que c'est juste un objet. Et là, l'emploi des mots a son importance. Mais forcément, ça touche à la philo. En mathématiques, voilà, en pédagogie, en didactique, sur la recommandation, sur l'individualisation, par exemple, des apprentissages. On a un autre projet européen dans la chaire qui est en gros, c'est un petit logiciel qui va sur le web et qui récupère les liens des ressources éducatives libres. Donc beaucoup de textes en ressources éducatives libres, des universités, de cours, etc. Il les prend. Il récupère le lien, il les lit, il en fait un résumé, il est traduit en 126 langues, et ensuite il les range avec des liens entre les autres cours. Donc il peut vous faire de la préconisation ensuite en vous disant « Tiens, tu t'es intéressé à l'intelligence artificielle, tu devrais pouvoir peut-être regarder ce que c'est que le deep learning, ou ce que c'est que... » Et il vous propose des liens en fonction du niveau ou de ce que vous avez consulté. Voilà, en médecine, en justice, en sécurité, en justice, c'est super intéressant aussi... de voir un petit peu les influences que ça peut avoir. Et pour finir, voilà, donc ce qu'on peut retenir de ça, j'ai essayé de vous faire une petite vision générale, c'est que de toute façon, l'IA, effectivement, a déjà de l'influence, et en quoi elle peut changer la société. Donc toujours avec peut-être les mêmes biais d'une génération qui serait née avec l'IA ou sans l'IA. Au même titre qu'on pense que la génération qui est née avec ordinateur l'utilise mieux que celle qui a appris à l'utiliser. Voilà les fantasmes qui sont liés à l'intelligence artificielle. Comprendre comment ça fonctionne, ça vous permet de voir aussi quel niveau d'influence ça peut avoir. Dans la presse, on a beaucoup de choses. Un des thèmes que j'aime bien taper, moi, c'est vous tapez sur Google « booster à l'IA ». Juste ça, booster à l'IA. Vous aurez plein de trucs de tout et n'importe quoi, une machine qui fabrique des pizzas, un whisky créé par une IA, à une IA qui a trouvé un vaccin en 48 heures, ou ce genre de choses-là. Et vous lisez l'article jusqu'au bout, et vous allez regarder quel type d'IA c'était, qu'est-ce qu'elle a fait vraiment, et où c'est intervenu. Donc voilà, sur des articles comme ça, sur une IA a été plus rapide que des scientifiques à trouver un vaccin en 48 heures, vous pouvez voir que ce sont les scientifiques, en l'occurrence, qui lui ont proposé des méthodes, des hypothèses de vaccins, et ils ont demandé à l'IA, en gros, de projeter pour regarder lesquelles avaient le plus de chances de fonctionner. Et effectivement, il en restait 4, ils ont testé les 4, et parmi les 4, il y avait le vaccin. Mais c'est l'IA qui a tout fait. Voilà. Donc vous pouvez aller un petit peu dans le détail, et ça, c'est intéressant. Et voilà, le but c'est de dire que l'IA n'est pas magique, effectivement, elle a besoin de données, c'est nous qui lui donnons les données, c'est lui qui nous donnons son architecture, la manière dont il fonctionne, ça reste, on a un contrôle sur ce qu'on est en train de faire, effectivement, voilà, on reste sur de l'algorithmie. Il y a des architectures qui sont plus floues, sur lesquelles on va laisser une liberté, mais effectivement, on peut aller explorer ça, on peut sonder, même si on ne comprend pas tout et qu'on n'a pas un accès... aussi précis qu'on l'aurait si on faisait vraiment un algorithme qu'on maîtrise de bout en bout. On peut aller sonder, on peut faire des architectures où on garde un contrôle volontaire sur ce qu'on produit. Je vous remettrai les sources, là vous avez la plupart des sources que j'ai utilisées, dont le générateur de chat, si vous voulez l'essayer, il est là. Mais encore une fois, je vous dis, il faut un peu de puissance si vous voulez que ça tourne. Donc voilà, je vous remets mon adresse mail et puis mon Twitter si vous voulez. Et puis si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre.
Je vais passer le micro, donc si vous avez des questions, si vous voulez revoir des choses qui ont été présentées par M. Maas, n'hésitez pas. Pas de réaction, ah, voilà, j'arrive avec un enregistre, donc je voudrais. Merci bien, attendre le micro.
Merci. Le cas où on n'a pas. Vous avez cité le cas où on n'a pas compris pourquoi AlphaGo avait pris telle décision. C'est parce que dans ces processus, il y a trop d'aléatoires ou c'est vraiment. On est incapable. Ça me laisse un petit peu perplexe, puisque vous rappelez bien que à la base de tout ça, c'est l'homme qui a tout conçu, donc on est censé pouvoir maîtriser. Pourtant, il y a des cas où on n'y arrive pas, quoi.
C'est vraiment lié à cette architecture-là sur le deep learning quand je parlais de boîte noire, c'est là que ça se passe. C'est qu'en gros, il prend pas de décision aléatoire. On sait qu'il prend une décision en fonction de certains critères. Le seul truc, c'est qu'on ne sait pas quels sont ces critères. Donc quand je dis qu'on peut les sonder sur des architectures, on peut aller voir plus précisément, avoir un contrôle à peu près sur les nœuds, quel nœud de décision il a pris. Par contre, si on lui laisse comme AlphaGo une liberté totale, et c'est ce qu'a fait Google en gros, hein, c'est de l'apprentissage vraiment non supervisé, on lui laisse le potentiel de fixer lui-même ses critères. Là, pour le coup, voilà, il prend une décision, il reproduira sûrement cette décision-là, mais on ne sait pas exactement pourquoi.
Donc si on lui remet la même partie avec qui tourne en rond pendant cette fois, là, normalement, il ne devrait pas craquer.
Normalement.
D'accord. Ouais. Vous l'avez essayé ?
Non, parce qu'on ne peut pas le faire tourner. Il y a beaucoup de joueurs professionnels qui s'entraînent avec Stockfish, qui est un autre bon logiciel d'échecs, et du coup qui est en accès libre et qu'on peut faire tourner. Donc ils peuvent comparer en gros les niveaux de Stockfish. Donc en gros, Stockfish fait son arbre de projection. Et on parle voilà, niveau 1, niveau 2, etc. Donc c'est tout l'ensemble des coûts possibles. Et donc ça, on peut le faire avec ce logiciel-là, mais on n'a pas accès forcément à AlphaZero. Donc on ne peut pas le faire tourner de la même manière. Ce qu'on sait, c'est que la plupart du temps, Stockfish ne comprend pas du tout pourquoi AlphaZero joue comme ça. Alors qu'il a même à des choses très profondes. Donc il y a des gens qui l'ont fait tourner à des profondeurs de 200, voire 500. C'est juste énorme, c'est des millions de millions de coupes. Enfin, voilà, on explore vraiment l'arbre à fond. Ça veut dire qu'il se dit que même dans 1000 coups, ce truc-là est toujours débile à faire. Enfin, il ne comprend pas pourquoi il le fait. Donc il propose plein de choses différentes, mais pas les coups d'AlphaZero, qui pourtant gagnent dans 99% des cas. Donc oui, sur le... cette partie boîte noire, elle est là. Et effectivement, c'est l'équilibre entre le laisser-faire et le potentiel de l'IA à explorer. Ou le contrôle, mais à un moment donné, il faut choisir parce que sinon, on revient à l'architecture qu'on connaît, quoi.
Donc, gentiment, Monsieur Maas va nous laisser son PowerPoint. Donc, vous retrouverez sur le site de Mendès France donc la liste des ressources, également tout l'ensemble du PowerPoint qui a été présenté, si vous voulez l'utiliser après. Voilà, d'ici une semaine, ça ne veut pas le mettre dès demain, donc d'ici une semaine à peu près.
Ouais, puis ouais, il y a vraiment, donc nous, le MOOC, il sortira au mois de mars, et puis il y a déjà pas mal, voilà, sur ça, vous aurez pas mal de bonnes ressources pour démarrer, des conférences de Yann Lequin, de la vulgarisation aussi, ou de la médiation, comme David Loirp, qui a fait d'ailleurs une très bonne vidéo, donc il y a une partie des visuels d'ailleurs qui viennent de sa vidéo sur le deep learning, donc la chaîne Science Étonnante, et il en a fait une il n'y a pas longtemps, donc je fasse attention, qui ne me pique pas toutes les idées, parce qu'il en a fait une sur Parcoursup pour expliquer le fonctionnement de Parcoursup, et qui est plutôt pas mal aussi. Et il vous explique justement le fondement mathématique qu'il y avait derrière BPA, qui fonctionnait très bien, pourquoi ça a été rejeté. Et il explique aussi le fonctionnement aujourd'hui de Parcoursup, qui est finalement le même fonctionnement qu'avant, mais au ralenti. Ça veut dire que c'est un peu comme si, pour nous, pour la société, c'était pas juste de donner une fonction aléatoire qui vire une partie des élèves. Et on est revenu à un système aujourd'hui par courrier. On doit donner d'abord l'établissement propose, ensuite on doit renvoyer. Et en fait, c'est exactement ce que faisait l'algorithme en une minute. On le fait à la main, entre guillemets, dans le monde réel, et ça prend maintenant un mois ou deux mois. Mais c'est le même processus, c'est le même algorithme, si vous suivez. Et donc, c'est plus acceptable, manifestement, de faire les choses au ralenti à vitesse humaine que de laisser une machine qui fait tout pareil, mais en une minute. Donc ça, c'est assez intéressant aussi sur notre perception, en fait, et il parle bien de ça. Bon, merci.
Merci. Et puis, comme il y a pas mal de professeurs de mathématiques, je vous rappelle l'exposition qui commence demain, Maths et Mesures, avec une conférence demain à 20h30 sur mesurer la distance des étoiles. Voilà, bonne fin de soirée, à bientôt, j'espère.